qui tu bosses.
Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. On est lundi, il est 16h, c'est l'heure de Trou Noir.
Bonjour, après la voix charmeuse de Monique, Serge au micro. Et oui, Nicolas n'est pas encore avec nous, je crois qu'il sera de retour d'un tournage pour lundi prochain, si je me souviens bien. Voilà. Donc, comme d'habitude, lecture d'une annonce, pas une petite annonce, une annonce, qui sera sur le site, qu'il y est déjà d'ailleurs, sur le site Trou Noir Radio Libertaire, Trou Noir en pluriel, et demain, l'émission d'aujourd'hui, il figurera comme l'ensemble de nos émissions depuis début 2009, voilà. Donc, une petite lecture rapide, et on va échanger ensuite avec notre invité, voilà. Donc Thierry Maricourt est l'auteur de nombreux romans et essais tels « Histoire de la littérature libertaire en France », j'en ai cité qu'un, mais il y en a plein d'autres bien sûr. Il présente comme un coup de gueule, entre guillemets, son dernier ouvrage, je crois que c'est l'avant-dernier, je crois d'ailleurs, je me suis aperçu depuis, tu en avais sorti un autre, qu'on pourra peut-être d'ailleurs la fin de l'émission. Donc le titre c'est « Words, words, words », point d'interrogation, « Woke, woke, woke », point d'exclamation. Peut-être on échangera un petit peu au début comment il a choisi ce titre. Et un sous-titre du délitement de la pensée émancipatrice, donc est paru aux éditions Noir et Rouge l'année dernière, non, c'est ça?
Oui, la fin de l'an dernier. Ou...
Voilà. Donc en tout cas, récemment, voilà. Donc d'actualité, hein, je pense que vous avez suivi un petit peu le titre que je viens de vous donner. Il rappelle que sont apparus aux États-Unis dans les années 2010 le Call Out Culture. Alors excusez-moi, je prononce assez mal l'anglais, donc pour parler de tous ces domaines, c'est pas terrible, mais bon, je fais ce que j'ai. Donc on en parlera un petit peu ce que c'est. Enfin bon, j'ai mis une petite explication. Dénonciation publique d'actes ou de propos considérés comme inadmissibles. Et qui est suivi, bien sûr, par la cancel culture, vont les accuser d'un ostracisme définitif. Les petits groupes, les pratiquants, ont pris une importance grandissante avec l'addiction numérique et aux réseaux sociaux, qui a profondément modifié les rapports entre les humains. Au point qu'un texte a été publié en 2020 par plus d'une centaine de signataires, dont Noam Chomsky, Salman Rushdie, enfin, etc., donc un extrait de ce texte alertant sur un nouvel ensemble d'attitudes morales et d'engagements politiques qui tendent à affaiblir nos normes de débat ouvert et de tolérance et différence en faveur de la conformité idéologique. Donc je crois que ça a été extrêmement mal pris dans plein de milieux aux États-Unis, universitaires et autres. Bon. Donc sont ainsi visés par ces signataires, ceux qui font retirer des livres de la vente ou de bibliothèques, qui perturbent des représentations théâtrales, interdisent des rencontres ouvertes. Trois petits points, donc on aura l'occasion de rentrer un petit peu plus dans les détails. Alors le wokisme, parce que ça figure quand même dans le texte, a des origines afro-américaines dans les années 1960, appelant à la conscience des problèmes liés à la justice sociale, à l'égalité raciale, ce qui est tout à fait positif, bien sûr. Mais avec le temps, il est devenu un mot fourre-tout, exporté en Europe depuis l'université américaine, exprimant une idéologie moralisatrice, sectaire et manichéenne. Les différences liées à la race, le genre, l'ange, l'âge, trois petits points, sont essentialisées. L'universalisme condamné. Les prolétaires ont disparu, bien sûr, la lutte des races remplaçant la lutte des classes, ce qui réjouit fort les tenants du capitalisme. Alors, encore un mot anglais, excusez ma prononciation, des Sensitivity Readers, appelés en France des mineurs éditoriaux, c'est ça ? Des mineurs en un seul mot, hein ? Ne comprenez pas. Donc, des mineurs éditoriaux sont chargés par des maisons d'édition de censurer et réécrire des ouvrages. Des livres sont retirés des rayonnages, des conférences débats annulées sous la menace, des enseignants molestés par certains parents, etc. etc. La peur retient certains qui ne sont pas d'accord de prendre la parole. Chacun doit rester chez soi. Les blancs avec les blancs, les noirs avec les noirs, les homosexuels avec les homosexuels, les trans avec les trans, etc. Trois petits points, vous mettez. Vous pouvez continuer. Donc Thierry Maricourt nous incite au contraire à vivre ensemble, nous rencontrer, discuter, les femmes avec les hommes, les musulmans avec les juifs, les vieux avec les jeunes, etc. Enfin, une citation, et je dirai finalement de qui elle est, alors, extraite du livre. Hein. Vous ne pouvez pas avoir une société qui respecte la liberté de conscience, la liberté d'expression, les droits des femmes, les droits LGBT, si vous n'avez pas au moins la laïcité. Donc c'est Mariam, je crois, Namazieh, on prononce comme ça, je crois, qui est une réfugiée iranienne, alors je ne sais pas en Europe, je ne sais plus exactement dans quel pays, mais je crois qu'elle est passée en France. Mmh. Et en tout cas, qui a déclaré ça récemment, je crois en décembre 2023, voilà. Dans son pamphlet, pour terminer, dans son pamphlet, notre invité souhaite que chacun puisse être ce qu'il entend être, sans souci de genre, de sexualité, de couleur de peau. Voilà. On peut souhaiter quand même que ça se termine un de ces jours, comme ça, voilà. Enfin, en tout cas, c'est le souhait qui est dans le livre, que je partage tout à fait. Ben, bonjour Thierry, merci d'être venu, on avait pris rendez-vous déjà quelques temps.
Bonjour et merci de m'inviter.
Et donc, ben tiens, puis on va commencer par le titre, parce que bon, il m'arrive de lire des livres, j'aime beaucoup ça. Et puis, en fait, Words, 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 ça me disait quelque chose. En fait, j'ai regardé, je crois que c'est dans Hamlet, il me semble.
Oui, c'est Shakespeare.
Voilà. Donc, comment t'as eu cette idée de titre pour démarrer ?
Non, c'est Shakespeare, mais c'est aussi Léo Ferré qui chante voilà. Words, 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 des mots. Et puis... Non, puis je pourrais répondre par une plaisanterie. À ma connaissance, c'est le seul titre de livre, peut-être au niveau mondial, avec 6 W. Mmh.
Ah,
voilà.
Oui, d'accord.
6 mots commençant par un W. Je me dis, là, quelque part, ça doit figurer au livre des records.
Well.
Ouais.
Oui, d'accord.
Mais au-delà de l'anecdote, oui, non, c'est words, 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 et puis des mots, et puis qu'est-ce qu'on fait au-delà de ça ? Et alors, une certaine réponse, c'est walk. En fait, la privation de la parole par des gens qui vont réclamer la parole. C'est tous ces antagonismes-là, toutes ces contradictions, toutes ces choses qui sont... au nom de principes avec lesquels je suis a priori tout à fait d'accord, au nom de luttes qui ont toujours été les miennes et qui sont toujours les miennes, des comportements, le sous-titre du livre, c'est le délitement de la pensée émancipatrice. Mmh. Comment au nom de choses qui sont tout à fait respectables, des belles idées, enfin l'humanisme, l'antiracisme, le féminisme, toutes ces choses-là qu'a priori on défend, des gens... En partant de ces idées-là, des gens en viennent à proposer quelque chose de complètement différent dans lequel, avec lequel on n'a plus qu'à se taire, quoi. On n'a plus qu'à fermer sa gueule si on ne correspond pas aux critères. Voilà. Enfin, les postulats, j'ai essayé de répondre à tout ça.
Oui, en fait, des choses qui ressortent de ton livre, mais de ce que beaucoup vivent autour d'eux, hein. Dans les milieux militants plutôt, mais pas forcément uniquement, mais bon, quand même en grande partie, parce que, en fait, tu en parles un peu plus loin dans ton livre, sur ces aspects-là, en tout cas sur les termes, finalement, il n'y a pas forcément tout le monde, il y a eu des enquêtes, hein, tout le monde ne connaît pas forcément exactement ce mot-là, ou en tout cas ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Donc, c'est quand même dans des milieux... à l'origine relativement restreint, c'est honorable, hein, on peut être un milieu restreint, et, mais qui effectivement prend encore plus d'importance, c'est ce que tu expliques dans le livre, de par ben, tout l'environnement d'écran, enfin d'échanges par Internet, plus aussi, visiblement, c'est quelque chose qui, en quelques années, est relativement à la mode, entre guillemets, donc les médias, un certain nombre de médias se lancent là-dessus. Donc l'idée, c'est que derrière tout ça, finalement, il n'y a pas forcément énormément de monde, mais des moyens qui leur permettent d'avoir un impact, en tout cas médiatique, beaucoup plus fort.
Complètement, c'est surreprésenté. Mais c'est des milieux, effectivement, qui sont... Enfin, c'est des petits milieux. Enfin, et ce qu'on appelle le wokisme, hein, entre guillemets, si on veut, ou sans guillemets, c'est apparu, et aujourd'hui, c'est porté dans les milieux, avant tout, universitaires et le milieu des médias. Alors, c'est des milieux qui sont en quantité, en nombre de personnes tout petits, mais qui se font très vite entendre. Voilà, le souci est là. C'est pas... Alors, effectivement, le grand public, en général, quand je parle autour de moi de la question du wokisme, beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. Parfois, ne savent pas ce que c'est, en toute honnêteté. Et puis, plus souvent, quand c'est des gens de gauche, militants... divers. Je ne sais pas, mais alors là, je ne sais pas ce qu'il veut dire, je ne veux pas en parler parce que je ne veux pas me fâcher avec des personnes qui me sont proches. Voilà. En fait, c'est des milieux très, très actifs par ailleurs. Enfin, on peut voir tout ce qui se passe, par exemple, à Sciences Po ou des endroits comme ça, qui sont, c'est ultra minoritaire, mais quand il y a une occupation de Sciences Po, c'est dans tous les médias, c'est jusqu'au président de la République qui va s'en mêler, ou, enfin voilà, c'est pas des milieux anodins non plus. C'est aussi des milieux qui font que la politique, elle est ce qu'elle est aujourd'hui, que les rapports de pouvoir sont ce qu'ils sont, voilà, c'est des milieux dont la parole est prise en compte.
Et oui, mais est-ce que ce milieu-là, comment il se construit en fait? Comment il se construit à ton avis? Enfin, tu as travaillé là-dessus. Parce que moi, j'ai un peu découvert ces choses-là de deux façons. Moi, je suis toujours un peu en retard parce qu'il paraît dans les médias, parce que bon, j'ai pas trop le temps d'aller voir ce qui se dit dans les médias. Donc, j'ai vu apparaître petit à petit un certain nombre de termes, en général anglais. Quoi. Bon, je sais pas si ça fait bien de causer anglais. Bon, en tout cas, ça vient un peu sans doute par le biais des milieux universitaires américains, on peut supposer. Bon. Ok, donc je me suis aperçu qu'il y avait ces choses-là. Puis après, je m'en suis aperçu d'une autre façon. Je pense qu'on prendra des exemples par la suite. Le côté assez violent, le côté menace, le côté mensonge, le côté tout ça. Mais je me suis demandé comment... Qui sont ces gens-là? Comment ça s'amalgame en gros? Parce que est-ce qu'ils ont une envie d'exister à travers leur nombril ou à travers leurs identités supposées, enfin, hein, qui ils supposent... comment ça se passe? Comment ça s'amalgame, à ton avis?
Au départ, ça part de très bonnes intentions. Je pense à George Floyd, par exemple, l'homme noir qui avait été tabassé par les policiers aux États-Unis, et puis ça devait être transmis à la télé. Ça fait un scandale. Enfin, c'est tout à fait normal. Et puis toutes les manifestations qu'il y a eu après en soutien à cet homme, c'est tout à fait normal. Quand on est de gauche, on ne peut être qu'antiraciste. C'est comme toutes les le mouvement MeToo, des choses comme ça. A priori, c'est quelque chose qui peut être que très sympathique. Sauf que le problème, c'est quand l'identité d'un individu est forgée, irréversible, on peut plus. C'est ça qui va déterminer tout le restant. En tant qu'être humain, on peut être un homme ou une femme, mais on n'est pas juste un homme ou juste une femme. On peut être un blanc ou un noir, mais on est aussi un être humain qui s'insère dans une communauté beaucoup plus large, la communauté humaine. Voilà. On n'est pas qu'une identité. Alors on pourra revenir après là-dessus, mais ça c'est le combat d'une certaine partie de l'extrême droite depuis bien des années, c'est l'identitarisme. Mmh. Voilà, on est alors si on, pour l'extrême droite, si on est français, on est censé être chrétien, on est censé être blanc, on est censé être français de souche, on est censé être ci ou ça, et puis on n'en sort pas, on peut pas être autre chose. Alors et finalement le wokisme est tout à fait accord avec cette façon de voir le monde. On est un noir, on est une femme, on est un homosexuel, on est un trans, on est tout ce qu'on veut, mais ça définit notre identité. Moi je pense qu'un être humain c'est pas ça, c'est il est tout ça. Un être humain c'est qu'il soit homme ou femme biologiquement, il est homme et femme, il est blanc et noir. Les souffrances qu'ont subies les noirs ou d'autres parties ou d'autres individus, finalement ce sont les souffrances de tous. Un blanc n'est pas un blanc peut aussi ressentir les souffrances des noirs, c'est parce qu'il est blanc qu'il verra les choses autrement. Un homme peut aussi ressentir les souffrances d'une femme, c'est parce qu'il est homme qui va dire si tu as été violé, c'est parce que tu l'as cherché. Voilà. Enfin, le fait de réduire un être humain à une identité, ça me paraît complètement d'une part aberrant, et puis ça me paraît être quelque chose de totalitaire. Mmh. Voilà. Moi, je pense que alors que ce soit les identitaires d'extrême droite ou les wokistes aujourd'hui d'ultra gauche ou je ne sais quoi, ils se rejoignent sur beaucoup de plans. Enfin, c'est un petit peu comme les identitaires français qui vont se rejoindre avec les djihadistes, les intégristes musulmans, parce que ce qu'ils veulent, ce sont des individus qu'on peut mettre dans des petites cases, ou alors on leur met une identité sur le front, et puis voilà, faut qu'ils s'accommodent de ça, il faut pas en sortir. Et moi, je pense en tant que libertaire, mais aussi plus largement en tant que qu'individu qui se définit comme de gauche, qu'on est tout sauf une identité figée, déterminée, et puis dont on ne sort plus.
Voilà. Oui, parce que ça, ce que tu dis, qui correspond à une réalité, malheureusement, ça fait un peu peur. C'est-à-dire que finalement, il n'y a plus aucune liberté de l'individu, puisque l'individu ne va pas être considéré par rapport à ce qu'il fait, mais il va être considéré par rapport à son origine ethnique ou son âge ou enfin divers critères. Donc il y a pas d'évolution possible, quoi. C'est donc on est du bon ou du mauvais côté, c'est divisé en deux, et puis il faut mieux être du bon, parce que si on est du mauvais, voilà, on va prendre plein la gueule.
Un individu quel qu'il soit, c'est un être extrêmement complexe. On peut très bien être un con à un moment et puis quelqu'un de respectable à un autre moment. On n'est pas voilà, c'est aussi pour ça que c'est aussi la grande différence entre la gauche et la droite. Mmh. La gauche pense que les individus sont perfectibles et qu'on peut évoluer. Voilà, c'est aussi pour ça, quelque part, qu'on est contre la peine de mort. Mmh. Parce qu'on peut avoir fait quelque chose d'affreux dans sa vie, enfin, je parle pour moi, mais de façon générale, et puis, évoluer, être quelqu'un de très différent des quelques années après. Mmh. Voilà, on n'est pas, c'est pas figé tout ça. Toutes ces idéologies qui prétendent qu'un être, c'est, mais finalement c'est on va pas revenir au point Godwin et tout ça, mais c'est Hitler, si t'es juif tu portes tous les maux de la terre, tout ça, et on te fait des procès, t'es juif ou t'es franc-maçon ou t'es tout ce que tu veux, enfin tout ce qu'il voulait, on fait des procès aux gens et on extermine les gens. C'est parce que derrière ces discours il y a aussi souvent des pratiques, et les pratiques qui sont assez dures, sur non pas ce que les gens font, là sur ce que les gens font, bien sûr, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais sur ce qu'ils sont a priori. Et là, c'est pas du tout pareil. On peut être grand ou petit, gros ou mince, ça n'a rien à voir. On peut être blanc ou noir, et c'est pas pour autant qu'on sera mieux ou moins bien. Mmh. On peut être un homme ou une femme, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on porte l'intelligence en soi, ou un homme, enfin ça n'a rien à voir tout ça. C'est un être humain est perfectible, un être humain est constamment en évolution, de sa naissance à son dernier jour, il va évoluer, il y a des choses avec lesquelles il va être d'accord à un moment, avec lesquelles il sera plus d'accord après. Voilà. Toutes ces notions, ce qu'on appelle le wokisme, ne veut pas en entendre parler, voire ça va beaucoup plus loin que ça, les rejette. Au profit toujours d'une identité, une sorte de pureté, pureté raciale, pureté intellectuelle, pureté de comportement, enfin. Mais tout ce qui est pureté, c'est il y a les camps qui sont derrière là.
C'est... Il n'y aurait pas un peu de religieux dans tout ça, parce que.
Et puis oui, bien sûr, il y a aussi un côté, alors, que ce soit religieux avec un dieu nommé ou avec une entité abstraite,
bah
qui
oui.
est
mmh.
le bien, le mal, bah c'est oui. la même chose. Mmh. Effectivement, il y a plus de rationalité là-dedans. Il y a plus, et de fait, il y a plus de discussion possible. Mmh. Enfin, c'est le problème avec le wokisme. Il n'y a pas de discussion possible. Les gens qui se revendiquent du wokisme, en général, si tu n'es pas dans les bonnes cases, c'est tout de suite très grossier et très violent. Hein.
Oui, oui, on va avoir l'occasion de prendre, on va passer une petite pause musicale, mais une petite citation de ton livre qui montre la liberté qu'on peut avoir de regarder autour de nous, du comportement des gens. Tu as mis, alors là je vais retrouver, jaune ou blanc, noir ou vert, un con est un con, un salaud un salaud, un violeur, une ordure, effectivement, et ça c'est... C'est exactement quelque chose que je pensais, mais depuis très longtemps, quoi. Si un noir en considère, à tort ou à raison, qu'il a fait quelque chose de pas bien, c'est presque du racisme, pas lui dire. C'est un humain, quoi. Il peut faire des conneries parce qu'il est noir, comme moi, je peux en faire parce que comme je suis blanc. Enfin, ça m'a plu, cette phrase. Ça me rappellera Johnny de quinzaine d'années. Monique, une petite musique.
Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf du cocon. Tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons. Tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire quand on est con. On est con, qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père. Quand on est con, on est con. Entre vous plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière traverse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière traverse, vieux con des neiges d'antan.
Con, 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 putain, con, con, con.
Vous les cons naissants, les cons innocents, les jeunes cons. Qui ne le niez pas, prenez les papas pour des cons. Vous les cons âgés, les cons usagés, les vieux cons. Qui confessez-le, prenez les petits bleus pour des cons. Méditez l'impartial message. T'as qui balance entre deux âges. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père. Quand on est con, on est con. Entre vous plus de controverses. Qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière traverse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière traverse, vieux con des neiges d'antan.
Le temps ne fait rien à l'affaire, une chanson de Georges Brassens interprétée par Chanson plus Bifleuré. Vous écoutez Trou Noir sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste.
Donc je rappelle, nous recevons Thierry Maricourt autour d'un essai, on va dire, un essai, un pamphlet, allez, on va dire. Histoire de la littérature... non, n'importe quoi. Je lis, je relis. World, 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 Walk, 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 du délitement de la pensée émancipatrice aux éditions Noir et Rouge. Oui, au fait, à Champus Bifleuré, tu les connaissais? Tu les as pas vus? Les chanteurs, là, le
groupe? Il y a quelques temps, quand même.
Quelques temps. Bah, de toute façon, les chansons de Brassens, il y a encore aussi quelques temps. Le temps ne fait rien à l'affaire, comme quoi, justement. Je sais pas, ça t'inspire, alors,
En écrivant cet essai, oui, j'ai souvent eu en tête cette chanson de Brassens, ah. Quand on est con, mais parce que ça correspond quand même pas mal aux gens dont je parle dans ce livre, mais quelque part, en la réécoutant là, je me dis, mais c'est, on peut être con et puis on peut évoluer aussi. On n'est pas forcément toute sa vie durant. Voilà, c'est aussi pour ça que je m'inscris contre tout ce qui est identité déterminée une fois pour toutes et puis sur laquelle on ne peut pas revenir.
Oui, d'ailleurs, je crois que de mémoire, hein, dans ton livre, tu dis, mais on n'est pas qu'un QR code qui est inscrit définitivement sur nous. On peut évoluer, on peut faire des bêtises ou pas.
Voilà, etc. Et puis notre soi-disant identité. Alors déjà, il faut définir qu'est-ce que c'est une identité. Ouais. Enfin, on n'est pas un animal d'élevage, on n'est pas une plante qu'on vend sur les marchés, tout ça. Un être humain, c'est infiniment plus complexe et notre identité. Elle ne va pas se résumer à ne serait-ce qu'à la couleur de peau, par exemple. Voilà, c'est pas parce qu'on est noir qu'on va forcément courir très vite et puis aimer danser, ou c'est pas parce qu'on est blanc qu'on va, je sais pas moi, aimer regarder des films. Enfin, tout ça, c'est pas des vérités en soi.
Oui, oui. Tu évoques, par exemple, hein, toujours dans l'esprit justement d'une identité, qu'elle soit super positive ou super négative. Tu parles de l'affirmative action, encore un mot anglais, hein, je suis désolé, qui en gros en glorifie une singularité, par exemple Black is beautiful, qu'on n'a pas choisi, hein, c'est, aucun mérite, c'est comme ça. On est noir, on est blanc, etc. Enfin, c'est tout à fait dans cet esprit-là, quoi. Donc il n'y a plus de dynamique, il n'y a plus d'évolution.
Et voilà, je comprends tout à fait qu'à un moment, certaines personnes noires aient eu envie de défendre aussi leur couleur de peau, parce qu'avec la ségrégation, le racisme et tout ça, à un moment, il faut essayer de retourner les choses et montrer qu'être noir, c'est pas ce que certains blancs peuvent dire, surtout à une époque. Tout ça, d'accord, mais après, je pense qu'on doit pas s'arrêter là-dessus, on doit continuer d'avancer. Pour moi, avancer jusqu'au point où on affirme qu'on est, malgré nos différences, malgré nos différences physiques, nos différences intellectuelles, nos différences de goût, enfin tout ce qu'on veut, on est quelque part tous des êtres humains semblables. Enfin. Moi, j'habite les Hauts-de-France et régulièrement, je vois passer des camions avec écrit dessus « Fier d'être Lensois ». Lensois, parce qu'il y a une équipe de foot à Lens et tout ça. « Fier d'être Lensois ». J'ai jamais compris comment on pouvait fier d'être de quelque chose qu'on n'a pas choisi. On n'a pas choisi son lieu de naissance. Voilà, on est à Paris, on peut naître aux États-Unis ou en Afrique ou en Chine ou n'importe où, on l'a pas choisi, ça. Il y a beaucoup de choses qu'on choisit pas. On choisit pas la couleur de peau, on choisit pas son sexe, on choisit pas non plus des choses comme tout ce qui est notre sensibilité. Voilà. Donc ces choses-là, on peut pas c'est comme être homosexuel, on peut pas être fier d'être homosexuel ni fier bien sûr d'être hétérosexuel. Ça nous dépasse, ça fait partie peut-être de nous, mais d'abord, c'est pas forcément toujours définitif. Et puis, dans la mesure où on l'a pas choisi, on peut s'en satisfaire, mais on peut pas en être fier. Ce qui est pas du tout pareil. Voilà, donc, ce qu'on appelle le wokisme, c'est t'es un individu avec telle caractéristique, et puis après c'est tout, quoi. Tu dois t'en tenir à ces caractéristiques. Enfin, quelque part, alors c'est tout ce dont tu parlais tout à l'heure sur les. Aujourd'hui, il y a des gens qui relisent des livres avant leur parution pour qu'il n'y ait rien qui gêne, qui choque et tout ça. Dans un roman, enfin, c'est complètement fou cette idée-là. Qu'on prenne n'importe quel livre, il y a forcément des choses qui vont gêner certains lecteurs. Mais c'est propre d'un livre aussi, ça. Enfin, c'est comme les gens qui sont heurtés par l'humour de Charlie. Mais après tout, il y a rien qui vous oblige à lire Charlie. Si ça vous gêne les blagues sur la religion ou sur ça ou ça, bah ne l'ouvrez pas. C'est tout. Et foutez la paix à ceux qui dessinent dans Charlie, qui écrivent dans Charlie, et à ceux qui rire en lisant Charlie, voilà. On n'est pas obligé non plus de fréquenter tout le monde, on n'est pas obligé d'aimer tout le monde, mais n'embêtez pas les autres non plus.
Oui, mais là, je crois qu'effectivement, c'est quelque chose dans ces milieux-là qu'on retrouve, je pense, assez fréquemment, ou à plus que fréquemment, c'est que l'humour, c'est pas bien. L'humour, c'est pas bien, et moi, je sais pas ce que t'en penses, mais au-delà que ces gens-là, beaucoup se prennent au sérieux, dans l'humour, il faut accepter qu'on puisse, y compris, se faire de l'humour par rapport à soi-même. Enfin, accepter l'humour, enfin, c'est y compris se remettre en cause, etc. Ça marche pas, ça.
Mais l'humour, effectivement, pour que ça soit efficace, il faut qu'on soit capable de rire de soi-même.
Ah, exactement.
Et de toutes les façons, et même de façon un peu, des fois un peu dure et tout ça. Si on n'accepte pas qu'on puisse rire de soi-même, effectivement, l'humour, c'est nul et non avenu à ce moment-là.
Si tu veux, c'est pas quelque chose de négligeable, parce que il m'est arrivé de parler, pas forcément de ce sujet-là, mais avec diverses personnes qui étaient d'accord ou pas d'accord avec moi, ça n'en a rien à foutre. Mais ce qu'on se disait, c'est que ça, par exemple, ce qu'on a connu dans les années 70, cette forme d'humour, cette façon d'aborder la réalité, ça passerait pas aujourd'hui. Combien de fois j'ai entendu ça? Ça passerait pas aujourd'hui.
Mais c'est ce qu'on dit souvent, enfin, en parlant de Coluche ou des proches ou d'autres individus, d'autres comiques, d'autres humoristes, qu'ils pourraient plus s'exprimer aujourd'hui. Enfin, quand on est écoute un petit peu les humoristes aujourd'hui, c'est souvent de l'humour très communautaire. Donc, de l'entre-soi. Voilà. L'humour, c'est une autre dimension. L'humour, à mon avis, c'est quelque chose de foncièrement libertaire. Voilà. Avec l'humour, le pouvoir, il est toujours déstabilisé. C'est pas un hasard si Hitler ne supportait pas l'humour. Une question qu'a taraudé Hitler pendant un certain temps, c'était Chaplin. Même avant qu'il fasse le dictateur. Mais est-ce que Chaplin n'était pas juif? Parce que pour avoir l'humour qu'il avait, c'était, pour Hitler, c'était pas possible, c'était pas admissible. Donc il pouvait pas être un citoyen tout à fait normal, Chaplin. Il était forcément juif, donc à rejeter. Voilà. Pour tous les autocrates, les dictateurs, enfin tous ces gens-là, l'humour, c'est quelque chose d'impossible. Parce qu'ils savent aussi qu'ils vont en être les premières victimes. Mais aujourd'hui, En laissant tous ces gens de côté autant qu'on peut, parce que bon, je pense que l'humour avec Poutine, c'est peut-être pas sa chose, son terrain préféré. L'humour, à chaque fois, ça fait peur aux gens qui ont du pouvoir. Et ça fait peur aussi encore plus à ceux qui veulent exercer du pouvoir, à ceux qui revendiquent du pouvoir, quel qu'il soit. Devant l'humour, ils savent qu'ils vont être déstabilisés. Et là, ils le craignent plus que tout.
Oui, c'est pas un domaine. Je me rappelle un peu ça.
Mais pour en revenir
à du temps où un des slogans, enfin, parmi d'autres, hein, je dis pas que c'est génial, mais on était un certain nombre, beaucoup d'ailleurs, à dire faites l'humour, pas la guerre, tu vois, choses comme ça, quoi. Aujourd'hui, ça serait sans doute mal compris. Je sais pas s'il vaut mieux faire la guerre, mais enfin, en tout cas.
Faites l'humour, pas la guerre, c'est. Mais pour en revenir à ce qu'on disait, on en est aussi aujourd'hui à une époque où, d'une part, on expurge les bibliothèques. On expure les bibliothèques aujourd'hui aux États-Unis. Alors c'est Trump aujourd'hui, mais très peu avant, c'était pas Trump. C'était les gens qui se revendiquaient du wokisme. Finalement, c'est pas un hasard. Ces pratiques-là, enfin par des gens qui sont censés se combattre, ils se rejoignent sur les mêmes pratiques. Ils ont une même conception du monde, une conception du monde autoritaire, et duquel il faut évincer tout ce qui va pas dans leur sens. Voilà. Et bon, bien sûr, Hitler aussi avait fait ça. Voilà. Mais à chaque fois, on retire, on élimine les livres, ben pas seulement, mais tout ce qui est artistique, qui ne nous convient pas. Et aujourd'hui, aux États-Unis, mais ça commence aussi en France, on en est à faire relire des romans par des gens qui vont chercher la petite bête et tout ça pour qu'il n'y ait aucun lecteur qui puisse s'estimer attaqué. Enfin, quelque part, c'est complètement fou. Et puis, il y a aussi des individus qui prétendent aujourd'hui que un blanc peut pas écrire un livre avec un personnage principal qui va être noir, par exemple.
Oui, ou un blanc ne peut pas jouer le rôle d'un noir. Enfin, il y a eu
au théâtre, au cinéma, tout ça.
Il voilà. y a eu des menaces.
Ou un homme, une femme, et toutes ces voilà. choses-là. Mais enfin, c'est complètement, quelque part, c'est complètement fou. Mm-hmm. Enfin, le propre de l'art, d'une façon générale, que ce soit la littérature, la peinture, ou tout ce qu'on veut, c'est justement de placer, d'extrapoler ce qu'on est, de dépasser notre enveloppe charnelle, si j'ose dire, d'aller plus loin et de pouvoir. Dans un roman, un auteur peut être un vieux bonhomme ou une petite fille, un chien ou un extraterrestre. Il peut être tout ce qu'il veut. C'est ce qui fait le propre de la pensée créatrice et ce qui est aussi la pensée émancipatrice. Voilà. Si ça, on le remet en cause, ça va très loin. Ou ça risque d'aller très loin.
Mais est-ce que... Bon, on va parler après quelques exemples, enfin tu l'as évoqué, mais on te répète encore plus dans les détails de justement comment se font les menaces, enfin quels sont les résultats, quels sont ceux qui sont visés. Bon, mais au-delà de ça, si tu veux, je crois que tu en parles dans le livre évidemment, mais donc voilà, il y a un certain nombre d'actions, on a parlé, on va en parler de, bon, de menaces, de choses, mais est-ce que ce qui est aussi inquiétant, c'est que c'est une espèce d'acceptation de ce fonctionnement ou de prudence, voire d'autocensure. Est-ce que, par exemple, puisqu'on parle des livres, mais on peut en parler d'autres choses, est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre aujourd'hui d'auteurs qui se disent, s'il sort un roman ou autre chose, peut-être falloir que je fasse gaffe, mieux pas que je parle de ça. C'est presque aussi dangereux, voir, hein, que les menaces directes, vois, pour moi. Oui. C'est-à-dire que l'individu renonce, certains individus renoncent à être eux-mêmes complètement, sous des menaces extérieures.
C'est ce qu'on appelle de l'autocensure. Hein, ouais, voilà, on prend les devants, plutôt que de risquer un procès ou un boycott ou n'importe quoi, on prend les devants et c'est pour ça que aux États-Unis où ça commence en France aussi, il y a des relecteurs de livres pour veiller à ce que tout le monde soit content. Voilà. Tout le monde, c'est aussi des lecteurs potentiels, donc des clients. Voilà, parce qu'il y a aussi ce côté-là quand même, hein, qui rentre en jeu.
Oui, bien sûr.
Côté marchand aussi.
Oui, tout à fait. Ça peut jouer.
C'est pas négligé, ça. C'est...
Oui, mais ça, effectivement, c'est des choses qui doivent exister de plus en plus, malheureusement. Mais je sais pas, si on est romancier et si on commence à se dire, je veux pas dire ce que j'ai envie de faire, c'est quand même un problème pour moi. Enfin, je suis pas romancier, mais je veux
autant, quand cette incitation à l'autocensure qui existe depuis longtemps autant quand cette incitation vient d'une droite dure ou d'extrême droite et tout ça, les esprits rebelles, les artistes et tout ça vont dire ah non, c'est pas possible, l'extrême droite voudrait ça, mais à bas Bolloré, à bas voilà, tout ça, là c'est clair, ça vient d'une droite qu'on n'accepte pas, là ok, mais quand ça vient a priori de nos rangs, quand c'est des gens, quand toi tu t'es toujours considéré antiraciste parce que pour toi il y a pas de hiérarchie, les races d'abord n'existent pas, il y a pas de hiérarchie de couleur de peau, toutes ces choses là, et puis qu'on va t'attaquer parce que dans un de tes livres tu vas mettre en scène un personnage noir alors que t'es blanc, tu te dis mais là tu vois pas forcément venir le coup non plus, et puis donc tu vas être mal à l'aise, tu vas dire qu'est-ce que j'ai fait, comme où c'est que j'ai fauté. Quand on t'attaque sur des choses que tu penses avoir toujours défendues, ça va plus. Et puis on sait pas comment se défendre.
Surtout que en fait les attaques, enfin fusent, ça peut être direct si tu fais une présentation de livre quelque part, mais beaucoup fusent sur Internet et après ça va très vite, quoi. Après ça circule, il y a plein de gens, puis à la fin on sait même pas de quoi on parle exactement, et puis ça y est, il y a plein de gens, et ben ça peut il y a un certain nombre de choses où on voit ça se termine par des menaces, y compris physiques, sur certaines personnes.
Mais il y a beaucoup d'auteurs qui ont été, je pense à l'auteur de Harry Potter, J.K. Rowling, qui a été attaqué enfin de façon absolument affreuse, tout simplement parce qu'elle, alors après elle a renchéri là-dessus pour faire chier le monde, mais bon, au départ c'est quand même parce qu'elle estime qu'un homme c'est un homme, une femme une femme, voilà, et enfin ça me paraît pas un drame que de dire ça, voilà, enfin il y a des attaques qui sont complètement ignobles. Et ce que je disais, quand ça vient de l'extrême droite, on sait, on s'y attend, on sait tout ça, on les, voilà, on sait comment les combattre. Mais quand ça vient de gens qui, au nom de l'antiracisme, te font un procès parce que t'as osé parler au nom de quelqu'un qui a une autre couleur de peau que toi, ou te font un procès parce que toi t'es pas trans et puis t'auras émis un avis qui sera peut-être bidon d'ailleurs, ton avis sera peut-être pas très intéressant, mais t'auras émis un avis et c'est pas pour autant que t'es quelqu'un, de foncièrement, machiste, phallocrate, anti-trans ou tout ça. Il n'y a plus de nuances. Enfin, de toute façon, ça c'est propre aussi de ces gens-là qui ne pensent que par le bien, le mal, le noir, le blanc. Enfin, les nuances, faut les évacuer. Voilà, tous les gens qui continuent à défendre les nuances, c'est-à-dire en gros les démocrates, les libres penseurs, les libertaires, bien sûr. Tous ces gens-là, on apparaît comme ennemis.
D'accord, ben je propose une pause musicale, continuer les échanges.
J'ai peur des rues, des quais du sang, des croix, de l'eau, du feu, des becs, d'un printemps fragile et cassant, comme les pattes d'un insecte. J'ai peur de moi, de vous, j'ai peur. Des yeux terribles des enfants, du ciel, des fleurs, du jour, de l'heure, d'aimer, de vieillir, et du vent. J'ai peur de l'aile des oiseaux, du noir, des silences et des cris. J'ai peur des chiens, j'ai peur des mots, et de l'ongle qui les écrit. J'ai peur des notes qui se chantent. J'ai peur des sourires qui se pleurent, du loup qui hurle dans mon ventre. Quand on parle de lui, j'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur du cœur, des pleurs de tout, la trouille des fois, la pétoche. Les dents qui claquent et les genoux qui tremblent dans le fond des poches. J'ai peur de deux et deux font quatre, de n'importe quand, n'importe où. De la maladie délicate qui plante ses crocs sur tes joues. J'ai peur du souvenir des voix tremblant dans les magnétophones. J'ai peur de l'ombre qui convoie des poignées de feu vers l'automne. J'ai peur des généraux du froid qui foudroient les pis sur les champs, et de l'orchestre du Noroi sur la barque des pauvres gens. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur de tout seul et d'ensemble, et de l'archer du violoncelle. J'ai peur de là-haut, dans tes jambes, et d'une étoile qui ruisselle. J'ai peur de l'âge qui t'épaisse, de la pointe de son canif, le manteau bleu de la jeunesse, la chair et les baisers à vif. J'ai peur d'une pipe qui fume, j'ai peur de ta peur dans ma main, l'oiseau lyre et le poisson lune, l'éclair pierre du chemin. J'ai peur de l'acier qui hérisse, le mur des lendemains qui chante, du ventre lisse où je me hisse, et du drap glacé où je rentre. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur de pousser la barrière de la maison des églantines, où le souvenir de ma mère berce sans cesse un berceau vide. J'ai peur du silence des feuilles qui prophétisent le terreau. La nuit ouverte comme un œil retourné au fond du cerveau. J'ai peur de l'odeur du marais palpitante dans l'onde douce. J'ai peur de l'aube qui paraît et de mille autres qui la poussent. J'ai peur de tout ce que je serre inutilement dans mes bras face à l'horloge nécessaire du temps qui me les reprendra. J'ai peur. J'ai peur.
J'ai peur, une chanson d'Alain Leprest interprétée par Bruno Daraki. Vous écoutez Trou Noir sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste.
Donc, toujours avec Thierry Maricourt autour de son livre Words, 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 Walk, 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 un délitement de la pensée émancipatrice aux éditions Noir et Rouge. Et bon, enfin, est-ce que tu es d'accord pour dire que c'est un pamphlet, en fait? Non, mais c'est pas. C'est comme tu veux. Oui, non, mais c'est plutôt, là, quand je dis ça, c'est pas forcément pamphlet, ça veut pas dire forcément violent, mais c'est dans le style d'écriture, quoi. J'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose, tu vois, que tu voulais
oui,
sortir.
Oui, un pamphlet, quoi. C'est un coup de gueule.
Ouais, voilà, voilà.
Oui, c'est tout à fait ça. Enfin, alors après, j'argumente, alors c'est pour ça que c'est parfois presque un essai, mais pour que ça soit un essai, il aurait fallu que j'argumente beaucoup plus.
Oui, d'accord.
Voilà, j'investisse des pistes que j'ai laissées un peu de côté, mais oui, dans un pamphlet, ça me convient bien, ça.
Mmh. Et effectivement, bah, d'ailleurs, on vient d'avoir un coup de fil à l'instant, tu dois avoir l'occasion d'avoir des gens qui te disent, mais oui, mais ça, effectivement, enfin, il y a quelqu'un qui en parle. Enfin, bon, il ne faut pas exagérer, hein, tu cites un certain nombre d'auteurs ou de personnes diverses, justement, qui commencent à dire ce qu'elles pensent. Mais quand même, est-ce que tu as déjà eu l'occasion, autour de toi, d'entendre
oui, non, mais si j'ai écrit ce livre, c'est parce que... Alors moi, je me considère comme, d'une part, comme anarchiste, et puis également comme militant anarchiste. Et pour discuter régulièrement avec des gens qui sont aussi militants anarchistes, à chaque fois, on se dit, mais il y a un problème, là, il y a quelque chose qui ne va pas. On s'est battu pendant des années pour des belles idées. Alors après, moi, quelque part, je comprends presque plus des gens de droite qui vont dire, je ne suis pas d'accord avec tes idées, et tout ça, pour telle ou telle raison. Bon, d'accord, chacun aussi, ok, mais là, c'est pas ça du tout qui se passe. On s'est battu pour des belles idées, des idées émancipatrices, des idées d'égalité homme-femme, d'égalité entre les individus, entre les citoyens. Tout ça, aujourd'hui, on est presque à revendiquer aussi une certaine égalité pour la nature, pour les animaux. Et moi, je dis, continuons, c'est pourquoi pas, allons dans ce sens-là. Et puis, des gens soi-disant issus des mêmes rangs vont tout empoisonner. Ils retournent les mots, ils retournent tout, et finalement, on a presque honte de se dire antiraciste ou féministe, parce que ça veut plus rien dire aujourd'hui. Voilà. On peut être antiraciste sans être racisé, comme disent certains. J'adore ce mot-là, racisé. Moi, quand j'étais gamin, je me souviens des bouquins que j'ai lus, tous ces Laborie, Mémy, tous ces grands auteurs qui nous expliquaient que les races n'existaient pas, les races humaines n'existaient pas, qu'il fallait se débarrasser de ces notions. Et bien sûr qu'il faut s'en débarrasser. Ça a produit trop de malheur sur la planète. Et puis aujourd'hui, on en revient à ça. Alors par l'autre biais. Alors à une époque, c'était l'extrême droite qui défendait l'idée de race et puis tout ce que ça veut dire. quand on dit race, il y a des races supérieures, les races inférieures, toutes ces choses-là, de hiérarchie sociale que ça impliquait. Et aujourd'hui, non, c'est des gens qui, au nom de l'antiracisme, comme moi, comme toi, comme d'autres, vont nous expliquer que les races existent, que parmi les races, eh ben, il y en a qui sont peut-être au-dessus des autres et tout ça, qui remettent en avant des choses pour faire le contraire de ce à quoi on pouvait s'attendre. Ça me paraît extrêmement dangereux. C'est ce que je disais tout à l'heure, mais aujourd'hui, on est sur les bibliothèques aux États-Unis ont été purgées ou expurgées par rapport à des gens qui se revendiquaient de gauche, des wokistes, et aujourd'hui, c'est Trump qui prend le relais, tout ça. Mais finalement, ce sont exactement les mêmes, tous ces gens-là. Mmh. Des gens intolérants, des gens qui prétendent avoir une vérité, avoir... les gens qui prétendent avoir une vérité, ça c'est quand même une sacrée peste. Hein. C'est... Longtemps c'était les religieux, mmh. C'était ces gens-là, mais aujourd'hui ça s'est élargi, et puis on ne fonctionne plus que par ça, quoi. Le doute, mmh. C'est... Le doute, voilà l'ennemi, pourrait dire certains.
Voilà l'ennemi, quand même. Hein.
Alors que c'est le doute qui nous permet d'avancer, c'est le doute qui nous permet de comprendre qui on est, ce qu'on veut.
Oui, et puis permet de comprendre les autres. On peut comprendre quelqu'un sans l'approuver, on peut essayer de comprendre ses arguments, etc.
Mais aujourd'hui, le doute est interdit. Voilà. Alors, du coup. Je sais pas comment il faut. Moi, je parle de wokisme dans mon bouquin parce que le phénomène il existe, il est identifié et ça s'appelle le wokisme. Voilà, c'est comme ça. Mais j'ai lu dans certains journaux que utiliser le terme de wokisme, c'était être d'extrême droite. Voilà. Alors du coup, je me découvre d'extrême droite parce que je l'ai utilisé sans trop de scrupules. Voilà. Mais il y a un petit souci quand même. Je me suis jamais senti beaucoup d'affinité avec les gens réellement d'extrême droite. Je vois pas ce que j'ai à faire avec eux et tout ça. Simplement sur le fait que je me pose des questions et que je doute et que j'essaie de trouver des réponses. Si c'est ça être d'extrême droite, alors ok. Mais dans ce cas-là, les rangs du Rassemblement National, ils vont grossir. Hein.
Mais est-ce qu'on peut pas dire pas ce qu'on veut quand même. Je vais pas forcément accuser les personnes dont on parle, en plus on sait pas trop qui c'est, bon, on a des exemples, mais est-ce que en fait, dans une certaine mesure, si tu veux, sans le vouloir, ils favorisent pas les idées d'extrême droite, parce qu'effectivement l'extrême droite se jette là-dessus, effectivement ils parlent de wokisme, ils dénoncent des comportements, etc. Et est-ce que ça peut pas jouer et voir faire que certaines personnes qui savent pas trop où ils en sont vont finalement se tourner in fine vers l'extrême droite, enfin ce serait un résultat peut-être contraire à ce que souhaitaient, j'espère, ces gens-là, mais ça peut être un des résultats.
Moi je pense que les intolérants se rejoignent. Il y a des intolérants, bien sûr, à l'extrême droite, mais il y a aussi des intolérants à gauche, ou à l'extrême gauche, ou à l'ultra-gauche, appelons ça comme on veut, et les intolérants se rejoignent à un moment. C'est un petit peu comme quand on voit les identitaires français d'extrême droite. Finalement, se rejoindre avec les intégristes musulmans. Ils veulent le même type de société. Voilà. La différence, c'est enfin ce qui va... Ils vont dire chacun chez soi, quoi. Voilà, les Arabes chez eux, les Blancs ici, voilà. Mais sinon, ils veulent le même type de société, une société autoritaire, une société où on n'a pas son mot à dire, une société où on n'a surtout pas à réfléchir, une société où on n'a pas du tout à être un peu entre deux. Je sais pas, peut-être, oui. Et ben ça, ils n'en veulent pas. Et dans ce cas-là, toutes les méthodes sont bonnes. Et alors, les méthodes aujourd'hui, on est quand même en France, même aux États-Unis, encore dans des pays de paix civile, les méthodes, ça va être l'amalgame, ça va être les injures, les agressions verbales, enfin pour l'instant on en reste là, enfin de temps en temps ça déborde, mais c'est encore limité, mais le chemin est vraiment ouvert pour que ça devienne quelque chose d'une part incontrôlable et puis très très dangereux.
Oui, ben, moi, y a une chose, mais je crois que tu en parles dans ton livre, que j'ai ressenti, c'est que tout est noir-blanc, si je puis dire, en jouant un petit peu sur les mots. C'est noir ou blanc, bah, t'es noir ou blanc, et si tu ne peux pas ne pas choisir, quoi. Et ou alors, si tu choisis, tu joues le rôle de noir ou du noir, ou du côté noir ou côté blanc. Et ça m'a fait penser, mais je crois que tu en parles aussi dans ton livre, parce que moi, je l'ai vécu dans les périodes où il fallait pas dire que l'URSS, qui était soi-disant, oui, je crois que tu en parles. Mais moi, je l'ai vécu personnellement. Et on me disait que je jouais le rôle de l'impérialisme américain. À partir du moment où je critiquais l'URSS, sur des faits, voilà. Des choses voilà. Quand même, on arrivait quand même à savoir par la suite, enfin pas au début, mais après, ce qui se passait réellement. Mais non, si tu critiquais l'URSS, eh ben, t'étais forcément dans l'autre camp, quoi. Et l'autre camp, c'est l'impérialisme américain.
Voilà, enfin, les anarchistes se sont habitués à ce, oui. À ce traitement, hein, que ça soit enfin, par l'extrême gauche ou l'extrême droite. Enfin, ils ont toujours été d'une part caricaturés. Et puis, avec leur position un petit peu plus réfléchie, ils prêtent le flanc aussi à ce genre d'attaque. C'est vrai qu'à une époque, si tu soutenais pas le parti communiste, tu étais forcément de droite, et puis de droite, donc tu étais promis américain, forcément, et puis droite, ça veut dire extrême droite, très vite. Voilà. Enfin, bon, heureusement, l'histoire a montré que l'URSS, c'était pas le paradis des travailleurs. Enfin, c'est un petit peu la même chose que Poutine quand il va attaquer les nazis en Ukraine, quoi. Appelez-moi con, hein.
Non, mais ça, c'est, si tu veux, c'est quelque chose, moi, j'ai toujours... Enfin, qui me représente bien, si tu veux, par rapport à ce qu'avance un certain nombre de gens, là, pour rester dans... Mais c'est quelque chose que je ressens dans d'autres domaines, par rapport à une organisation, par rapport à ces groupes de gens, par rapport à d'autres choses. Il y a ce que les gens disent, ce qu'ils proposent. Dans leur tête, c'est forcément l'idéal. Et moi, je regarde, ça m'intéresse ce qu'ils proposent, et je regarde comment ils agissent. Et je pense que déjà, tu as donné pas mal d'exemples, plus que d'autorité, de menaces, de choses comme ça. Et moi, y compris, j'ai un peu évoqué avec certaines personnes autour de moi des comportements, mais j'ai dit, moi, ça déconsidère, même si la cause était géniale, quoi, vraiment la meilleure cause qu'on puisse imaginer, ça déconsidère complètement quand tu as des comportements comme ça, super autoritaires. Ça, c'est un truc que je ne peux pas accepter. Alors, c'est peut-être parce que je suis né anarchiste, enfin, je pense que, bon, il n'y a pas de chromosome de l'anarchisme, mais j'ai toujours été comme ça. Moi, je peux m'opposer, il y a quelqu'un, je peux m'opposer à quelqu'un, éventuellement m'énerver, discuter, etc., échanger, ça peut des fois, même, pourquoi pas, me faire changer un peu d'opinion. Mais comme ça, méthodes autoritaires comme ça, je peux pas. Quoi.
C'est toujours la question, est-ce que la fin justifie les moyens?
Bah oui, absolument.
Voilà, on est toujours là, enfin, ça a connu plein de versions, hein, cette idée-là, mais est-ce que la fin justifie les moyens? Eh bien non, effectivement. On peut pas prétendre défendre des idées généreuses, des idées tolérantes, en étant soi-même intolérant, violent, voilà, c'est pas possible. Il y a une contradiction. C'est plus qu'une contradiction.
Oui, ou alors, ce qui est peut-être encore plus grave, s'il n'y a pas contradiction, c'est que les personnes en question, en eux-mêmes, ils ont déjà l'autorité, et qu'ils veulent pas forcément la mettre en avant, mais de fait, par la pratique, tu le vois. Oh, on va faire une petite pause musicale, Monique.
Il y avait Jéhovah, Jésus, Rama, Krishna, Vishnu, Brahma, Bouddha, bref, il y avait le choix. Il y avait Mahomet, Allah, Zarathustra et moi. Il y avait Jéhovah, Jésus, Rama, Krishna, Vishnu, Brahma, Bouddha, il y avait le choix. Il y avait Mahomet, Allah, Zarathustra et moi. Oui, mais moi Dieu, moi je n'ai Dieu que pour toi. Dieu, moi je n'ai Dieu que pour toi. Et pour toi là-bas aussi dans le fond. Mais toi le petit là, dans la chapelle,
de tes Sixteens, je m'y perds mon lapin. Accueille-moi contre ta poitrine, parmi tes seins, où coule le lait et le miel, c'est la terre promise. Laisse-moi porter jusqu'à l'autel ta petite valise. Yahvé Jéhovah, Jésus, Rama, Krishna, Vishnu, Brahma, Bouddha, Yahvé le choix. Yahvé Mahomet, Allah, Zarathustra et moi. Oui, mais moi, Dieu, Dieu, oui, je n'ai Dieu que pour toi. Dieu, Dieu, oui, je n'ai Dieu que pour toi. Selon Saint Glacé de la Passion, j'ai mis au clou, depuis le jour de ton apparition, tous mes gourous. Et j'ai dit stop, stop, arrêt Krishna, un coup de poudre, arrêt curé, un baril de super croix, and walking on, walking on the moon. Jéhovah, Jésus, Rama, Krishna, Vishnu, Vishnu, Brahma, Bouddha, tout ça, Yahvé, Chouakwaya, Yahvé, Mahomet, Allah, Zarathustra, puis moi. Mais moi, Dieu, moi je n'ai Dieu que pour toi. Moi, Dieu, je n'ai Dieu que pour toi. Zélé comme l'ange du paradis, je prie encore mieux. Avec toi toutes les nuits, je deviendrai pieux. Je deviendrai pieux. Je deviendrai pieux. Oh Yahvé Jéhovah, Jésus, Rama, Krishna, Vishnu, Brahma, Bouddha, tout ça, Yahvé, je vois pas. Yahvé Mahomet, Allah, Zarathustra et moi. Yahvé Jéhovah, Jésus, Rama Krishna, Vishnu, Brahma, Bouddha, tout ça, Yahvé choix quoi. Yahvé Mahomet, Allah, Zarathustra et moi. Moi, Dieu, je n'ai Dieu que pour toi.
Dieu que pour toi, c'était Xavier Lacouture dans Trou Noir sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste.
Et bien sûr, toujours avec Thierry Maricourt autour du livre World, World, Worlds, Woke, 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 délitement dans la pensée. Et de la pensée, pardon, émancipatrice, paru aux éditions Noir et Rouge. On va parler de Dieu d'ailleurs bientôt, mais avant, peut-être que tu avais aussi d'autres exemples, il y en a énormément hein, dans le livre d'attitudes autoritaires touchant toutes sortes de gens, hein, des écrivains, des gens qui ont fait des... Enfin, aussi dans les arts, dans la peinture, enfin, il y a tout un domaine d'intervention. Alors, je ne sais plus ce que tu veux développer comme exemple, par exemple.
Mais juste à propos de Dieu.
Ah, ben voilà.
Et Dieu dans tout ça, hein, comme disait l'autre. J'ai lu seulement récemment le livre qui s'appelle 2084 de Boualem Sansal, que j'aurais dû lire bien avant, mais bon, j'ai une petite pile de livres. Voilà. Il n'était pas au-dessus, celui-là. Et quel livre, c'est ce qu'on appelle l'anticipation ou la politique fiction. Une société où les religieux ont pris le pouvoir de A à Z. Alors bien sûr, on peut reconnaître beaucoup de sociétés, notamment en Afrique ou ailleurs. Et quand on voit que Boualem Sansal est citoyen franco-algérien et en prison en Algérie depuis, il y avait quoi, 4 mois ou 4 mois à peu près aujourd'hui, en fait, c'est pas. Qu'est-ce qu'il lui reprochait, c'est d'avoir donner un avis qui n'était pas celui du gouvernement sur la frontière du Sahara occidental, ça c'est... Voilà. Mais ça c'est complètement bidon. Si on lit 2084, on comprend pourquoi il est en prison là. Voilà, parce que c'est un athée, c'est un libre penseur, et c'est tout ça. Enfin, c'est un bouquin. Alors c'est pas de la SF, hein, mais politique fiction. C'est plein d'humour, l'humour très très fin, très très bien vu souvent, et forcément que ça ne peut que déplaire au gouvernement algérien aujourd'hui, mais à d'autres gouvernements du même ordre. Voilà. Et quand on voit que quelqu'un comme ça est aujourd'hui emprisonné juste pour s'être exprimé, enfin c'est complètement fou. Et quand on voit encore qu'il n'y a pas unanimité ici pour le soutenir, on se dit, mais quels sont les salopards qui refusent de voter une motion de soutien. Alors les salopards, je ne vais pas les nommer ici, et ces salopards-là qui ne soutiennent pas Boualem Sansal, on va les retrouver des fois dans les manifestations, parce qu'on va être du même côté. Ils sont censés défendre les mêmes choses que nous. Je pense qu'on n'utilise pas les mêmes dictionnaires.
Oui, ben justement, peut-être c'est le moment de développer un peu plus, puisque en fait, moi j'ai connu la période où t'étais facilement attaqué comme islamophobe, voilà, c'était un mot tout à fait à la mode, je pense qu'il doit encore l'être plus ou moins, dès qu'on critique de l'islam, alors à divers degrés, hein, ça peut être par l'intervention.
Et pourquoi n'aurait-on pas le droit d'être islamophobe? Pourquoi n'aurait-on pas le droit de critiquer une religion? Alors qu'elle soit l'islam, mais on ne s'est jamais privé non plus de critiquer la religion catholique ou d'autres. Enfin, toute religion est porteuse aussi d'autoritarisme. Toute religion a des lots de méfaits dans son histoire. Pourquoi on ne pourrait pas critiquer une religion? Alors, l'islam, c'est pas l'islam, religion des opprimés. C'est ça le prétexte. Hein.
Ah bah, je m'en rappelle.
Ouais, voilà, faut pas se moquer d'islam parce que c'est la religion des opprimés. Allons faire un tour en Arabie Saoudite, allons faire un tour au Qatar et tout ça, on verra les opprimés à quoi ils ressemblent. Ça va. Ça a peut-être correspondu à une certaine réalité. Moi, je pense au bouquin Élise ou la vraie vie de Claire Turelli où les Algériens venaient en France travailler et puis ils trouvaient dans l'islam un petit peu de réconfort. Ok, mais ça, c'était une époque. Mais c'est une façon aussi de pratiquer l'islam pour certains, pourquoi pas. Mais les gens qui croient, moi, ça ne me dérange pas, qu'elles soient qui se disent. Qu'ils disent musulmans ou catholiques ou tout ce qu'on veut, je m'en fiche complètement dans la mesure où ils m'imposent pas cette croyance. Voilà. Mais le fait de critiquer les religions, ça me semble quelque chose quand même de très bienvenu. Enfin, la religion, c'est pas n'importe quoi. C'est quelque chose, enfin, qui nous impose un certain mode de vie, qui nous impose des valeurs. Heureusement qu'on peut les critiquer. Et c'est pas parce qu'on critique l'islam qu'on est raciste. Enfin, ça, c'est complètement con d'amalgamer les deux. Tous les Arabes, les gens, les Maghrébins, ou les Asiatiques, ou tout ça, ne sont pas tous musulmans. D'une part, il y a aussi pas mal d'athées. Enfin, moi, je connais pas mal d'athées parmi les gens originaires de ces pays. Et puis, même ceux qui sont musulmans ne sont pas forcément des intégristes.
Bah moi j'étais, tu vois, je suis un peu naïf, mais la première fois que, enfin il y a quelques années, c'est pas très vieux, hein, 2-3 ans, j'ai entendu des féministes défendre le voile. Au moment où on avait en plus en Iran des femmes qui brûlaient les voiles, enfin... Je trouvais ça complètement hallucinant, en plus, puisqu'on parle d'islam quand même dans beaucoup de pays. Parce que le problème des religions, quand elles sont minoritaires, elles ont toujours relativement une attitude relativement fusée. Mais quand elles sont majoritaires, dans les pays islamites, la commission des femmes, on ne peut pas dire que ce soit génial du tout. Je ne comprenais pas. Honnêtement, je ne comprenais pas.
Bien sûr, mais moi je pense que quelque part, il y a des choses qui relèvent de la pathologie mentale. Il y a des problèmes. C'est pas que l'histoire de politique. Je pense que ça va beaucoup plus loin. Enfin, c'est aussi quelque part, c'est le syndrome de Stockholm aussi, hein, où on est attaqué par quelqu'un, on est pris en otage, on subit des violences et tout ça. Et puis à un moment, on va approuver l'agresseur, l'oppresseur, voilà. On perd tout sens de la réalité, on perd tout sens de ce qu'on a pu subir. Mmh. Et puis on est d'accord. Enfin, c'est comme les femmes battues qui vont soutenir leur conjoint, leur mari. Enfin, les tribunaux, on voit régulièrement. On est comme ça, les policiers aussi, on voit régulièrement. Et quelque part, ça interpelle, ça. Mmh. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et je pense que il y a des phénomènes de cet ordre-là, avec les femmes qui soutiennent qui approuvent le port du voile en Iran. Enfin, tu parles de ces manifestants il y a 3-4 ans et tout ça, mais la plupart sont toujours.
Ah non, mais vraiment, je comprenais pas.
Toujours en prison aujourd'hui.
Bah oui.
Voilà. C'est comme en Afghanistan. C'est pas un hasard non plus. La Russie reprend ses relations diplomatiques avec l'Afghanistan. La Russie reprend les relations commerciales avec l'Afghanistan, c'est qu'ils sont plus du tout des ennemis. C'est pas un hasard non plus, ça. Enfin, tous ces gens-là, en gros, ces salopards qui nous empêchent de vivre heureux, ils s'associent, ils se ressemblent. Alors qu'il y en a qui mettent Dieu en avant et puis d'autres pouvoirs militaires en avant ou nationalisme, c'est les mêmes. Non, je pense qu'on peut être islamophobe, je vois pas où est le problème.
À condition que tu sois un peu catophobe sur les bords aussi.
Bien sûr, bien sûr. Tu es contre, si t'es un libre penseur, t'es contre toutes les religions. Voilà. Ça dénie pas aux gens le fait de croire. Voilà, chacun croit en ce qu'il veut. Mais ça dénie aux gens le fait de l'imposer. C'est ça le problème, c'est ça.
C'est quand les religions deviennent majoritaires ou ont du pouvoir dans un pays, en général, ça se passe toujours de la même façon, hein, quelle que soit la religion. Oui. Enfin, je vais prendre, si tu permets, une citation de ton livre. J'ai le droit. Qui est liée à ce qu'on évoque. Hein. L'athéisme, l'anticléricalisme, l'agnosticisme, l'impiété, l'incrédulité, la mécréance, le scepticisme, l'irréligiosité, l'apostasie, la libre pensée, le rationalisme doivent impérativement être défendus au même titre que l'humour. C'est bien de toi, ça.
sûrement, mais
c'est dans ton
pas
livre.
Moi, je...
Non, mais des fois j'aurais pu noter, puisque c'était quelqu'un qui l'avait dit, mais je crois bien.
Je reprends et je re-signe des deux mains. Bien sûr.
Mais bon, je reste un petit peu sur ce sujet-là, parce que, y compris, c'est des choses qu'on voit aujourd'hui. On a parlé de la condition des femmes, hein, dans les pays musulmans, enfin, avec des degrés différents selon le pays, mais enfin, ça, c'est toujours un peu la même chose. Hein. La femme est vraiment au service de l'homme, à tout point de vue. Et bon, elle doit être voilée, on sait pourquoi, etc. Les enfants sont éduqués comme il faut.
Enfin, bon. Elle doit être voilée, oui, on sait pourquoi elle doit... Elles doivent être voilées pour pas susciter le désir des hommes.
Voilà, exactement. Enfin,
c'est fou, ça veut dire que les hommes sont des bêtes. Et si les femmes sont pas voilées de la tête aux pieds, ils vont se jeter dessus. Le problème, c'est où, là? C'est la femme ou c'est l'homme?
Absolument. Non, je voulais prolonger, si tu veux, c'est quelque chose qui est d'aujourd'hui, en fait, par rapport à la Palestine. Alors, évidemment que on défend comme on peut, de loin, etc., les Gazaouis, enfin, tout ce qui se passe, effectivement, hein, dans la Palestine, par rapport à Israël, par rapport à tout ça. Mais dans ce contexte-là, qu'on comprend tout à fait, un certain nombre de gens n'acceptent pas qu'on puisse remettre en cause, par exemple, l'intervention du Hamas ou des choses comme ça. C'est absolument inacceptable. On n'a pas le droit de dire quand même cette attaque violente. C'est elle aussi qui a déclenché.
On l'a vu après le 7 octobre 2023. Ouais. Et en dépit du comportement de l'armée israélienne, bien sûr. Mais après le 7 octobre 2023, les femmes israéliennes n'hésitaient plus, enfin, pour beaucoup de manifestants pro-palestiniens, jusqu'à certains qui qui présente le Hamas comme un outil de d'émancipation ou de révolution ou de résistance, enfin, comme quelque chose de positif. Enfin, enfin dans ce cas-là, alors, ce qui est vrai, et je pense là à un livre de Sophie Oksanen qui parle de deux fois dans le même fleuve, ça s'appelle Sophie Oksanen, qui parle de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, avec aussi le système du viol en permanence. Le viol, ça fait partie aussi des façons de mener une guerre. Enfin, c'est depuis toujours, et c'est toujours pas terminé, ça. Mais sauf que ce qui s'est passé le 7 octobre 2023, ça a été une démesure totale. Ça a été, enfin, quand on voit des enfants qui ont été tués, des jeunes filles qui ont été tuées, violées, enfin, des choses les plus affreuses qui puissent exister. Et après, dans les manifestations, notamment parisiennes, à l'appel de collectifs féministes, ça n'apparaissait plus. Il fallait surtout pas en parler. Ça me fait penser à une même chose. Et je rappelle, je suis pas du tout d'extrême droite. Et l'extrême droite, ça me fait vraiment gerber. C'est pas parce que l'extrême droite, à un moment, va pointer quelque chose ou va dire quelque chose que c'est forcément faux. S'il pleut, tout le monde va dire, on peut dire qu'il pleut aussi. Ça me fait penser à ce qui s'était passé aussi en Allemagne, notamment, et dans les pays nordiques, où il y a un soir de Nouvel An. Des jeunes femmes ont été violées par des hommes, et après, rapidement, les policiers se sont aperçus que la plupart des hommes étaient des musulmans. Voilà. Eh bien, il fallait pas en parler pour pas stigmatiser. Enfin, je trouve ça complètement débile parce que c'est en parlant pas et en cachant quelque chose qu'on met en exergue, en fait, qu'on va le rendre encore plus. Et
de toute façon, c'est l'extrême droite qui va en parler. Hein.
Bien sûr,
on peut y compter. Hein.
Voilà. Il y a des choses, ça fait partie des réalités objectives. Donc, il faut aussi s'emparer de certains sujets, même s'ils nous gênent. Bien. Moi, ça, d'une part, qu'il y ait des viols, ça me gêne, mais que ces viols soient commis par des gens en situation difficile, en situation de précarité, c'est presque encore plus gênant. Mais c'est pas pour autant qu'il faut, d'une part, les accepter, qu'il faut faire la passe dessus. Il faut dire les choses comme elles sont, et après, on essaie d'apporter des solutions. Voilà. Et là, les solutions, par exemple, en dénonçant ces viols commis par des migrants, sur des femmes, ça permet de ne pas mettre tous les migrants dans le même panier. Voilà, il y a des cons parmi eux, comme il y a des cons dans l'ensemble de la population. Les cons ou tout ce qu'on veut, mais voilà. Il faut pas mettre les poussières sous le tapis, comme on dit.
Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même... effectivement, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, mais je pense quand même, en tout cas, sur l'histoire de la Palestine, là, une utilisation politique par certains membres de LFI qui espèrent avoir des voix dans les banlieues grâce à ça. Moi, je pense qu'il y a quand même un peu ça.
Ça, c'est évident, ça. C'est la rupture aussi Ruffin-Mélenchon, quelque part. Voilà. Là-dessus, j'approuve tout à fait la position de Ruffin. La France, c'est pas que les banlieues, mais la France, c'est pas non plus que les territoires ruraux. La France, c'est tout ça à la fois. Voilà, il faut prendre en compte tout ça. Mélenchon, c'est une politique complètement... après moins de déluge, où effectivement il y a des voies à prendre, parce que dans les quartiers, les gens votent très peu et tout ça, il y a des voies à prendre. Mais c'est peut-être pas la meilleure façon que de les prendre, que de caresser certains intégristes dans le sens du poil. C'est pire que mieux, ça. C'est de la politique politicienne, à mon avis, enfin, en ce qui concerne Mélenchon, et puis une bonne partie de LFI, je pense, mais c'est une politique de fou. Ça va mener à des, enfin, ça mène à n'importe quoi, à des alliances contre nature, c'est très dangereux.
Oui, tout à fait. Et en fait, c'est un domaine effectivement qui peut être difficile, quoi. Admettre que dans des populations qui globalement sont opprimées, enfin plus ou moins sur leur pays, à l'intérieur de ces populations, il y a des gens qui mènent des actes qu'on ne peut pas accepter. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Enfin, c'est ça dont on parle. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ?
Justement, le monde, il n'est pas tout blanc, tout noir. Il est pas, oui. Y a pas les gentils, les méchants et tout et ça.
Ils ont le droit en plus d'avoir en leur sein des gens qui sont comme on a nous.
Je sais pas s'ils ont le droit parce que s'il y a des gens dont on se passerait bien.
Mais, non, mais d'accord, mais je veux dire, je vois pas pourquoi, parce qu'ils sont opprimés, ils vont pas aussi avoir des problèmes de pulsion, des problèmes X ou Y, des problèmes psychologiques, psychiatriques.
Bien sûr.
C'est des humains, en fait.
Bien sûr. Et des connards, il y en a de tous les côtés. Il y a partout. Et les musulmans sont pas épargnés par le phénomène, ni les asiatiques, ni comme les blancs sont pas épargnés par le phénomène. Enfin, voilà, des connards, il y en a partout. Mmh. Et c'est sûrement pas la meilleure chose à faire que d'aller les soutenir au nom de succès électoraux espérés. En plus, les succès ils sont très très relatifs. Je vois pas Mélenchon arriver au pouvoir ni à court, ni à moyen, ni à, encore moins bien sûr à long terme, et heureusement. Mais par contre, ça met un climat très très délétère en France, un climat... finalement, de fait, les musulmans vont apparaître comme des nids de terroristes ou des nids de djihadistes, alors que c'est pas ça du tout.
Oui, encore un mot, puis après on fera une pause musicale rapidement, toujours sur le même thème, parce que c'est un thème d'actualité. Moi, en plus, j'y suis très sensible. D'ailleurs, on a récemment sorti un petit livre, mais plutôt historique, comment on est arrivé là, sur la Palestine. Une des choses aussi qui j'ai l'impression qui se passe par rapport à la défense des Palestiniens, là-dessus, je suis tout à fait d'accord, en défense des Palestiniens, ce qu'ils subissent, je ne vois pas comment on peut faire autrement, mais par rapport à l'agresseur, d'accord, l'agresseur, c'est l'État d'Israël, ok, condamne, bon, il n'y a pas de mal à condamner l'État d'Israël, ceux qui le dirigent, ils ont les gens d'extrême droite, à mon avis, enfin, la plupart, mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas un ricochet, j'ai l'impression, dans certaines réactions, qui a fait remonter un peu d'antisémitisme? Pour certains. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait condamner l'attitude de l'État d'Israël, mais sans pour autant dire tous les juifs, etc. Donc, est-ce que ça, il n'y en a pas qui, par rapport à des attitudes pas très claires de défense inconditionnelle, notamment du Hamas et tout ça, donne une figure du juif finalement
tout négative. À fait. Enfin, dans les manifestations pro-palestiniennes, vaut mieux pas être juif.
Ah oui, tout à fait.
Voilà. Et c'est proprement scandaleux, ça. Ouais. C'est proprement inacceptable. Ouais. Il se passe des choses qu'il faut dénoncer, c'est un fait. Le gouvernement israélien porte des grosses responsabilités. Enfin, le gouvernement israélien, il y avait aussi en face le Hamas. C'est pas des enfants de cœur non plus. Voilà. Mais ça justifie en rien le fait de faire l'amalgame entre l'État israélien et le fait d'être juif. Ça n'a rien à voir. Ça me fait penser au film du Pont La Joie où un arabe était censé avoir violé une jeune fille. Enfin, c'est un vieux film, ça, mais qui est toujours à voir. Hein. Et du coup, c'est tous les Arabes qui apparaissaient comme des méchants violeurs et tout ça. Voilà. Mais non, il y a dans toute communauté, il y a des gens qu'il faut mettre à l'écart. Mais c'est pas toute la communauté qui est responsable. Et effectivement, moi, je pense qu'il y a un regain d'antisémitisme aujourd'hui, et c'est pas du tout un phénomène marginal, comme dit Mélenchon, ou résiduel et tout ça. Hélas, c'est pas ça. Il y a toujours eu un antisémitisme latent en France. C'est pas d'aujourd'hui.
Enfin,
Sternel, il fait remonter ça les années 1880, enfin toute cette époque avec Drummond et puis Jouvenel et puis d'autres. Ça a donné les années 30, avec toute cette presse aussi qui s'en prenait à Léon Blum ou à Jean Zé juste pour leurs origines. Ça a donné la collaboration. Et puis après, bien sûr, avec ce qui s'est passé en Allemagne, les camps, plus personne n'osait se dire antisémite. Alors là, effectivement, c'était résiduel à cette époque-là. Il n'y avait plus qu'une petite frange extrême droite qui persistait, mais bien sûr, ils étaient plus entendus. Mais aujourd'hui, c'est revenu et en force. Et aujourd'hui, alors l'extrême droite, moi, ils ont beau faire des voyages, enfin Bardella et d'autres, ils ont beau faire des voyages en Israël et se montrer tout ça. En fait, ils vont faire des voyages parmi leurs homologues d'extrême droite. Voilà, c'est l'extrême droite qui rend visite à l'extrême droite, mais c'est tout. Mais je pense que le Rassemblement National est aujourd'hui toujours aussi antisémite qu'il a été à l'époque de sa fondation avec le Front National en 72. Mais je pense que l'antisémitisme qui avait quand même en grande partie disparu à gauche et à l'extrême gauche fait une remontée en force et avec la justification de Gaza, d'Israël, les méchants, voilà.
D'accord, une pause musicale comme je l'avais annoncé, Moni.
On ne croit pas aux clous des fakirs, on croit pas aux clous sur les croix, ni à l'eau, ni à l'au-delà. On préfère le communard au kir, on préfère le bonnet à la calotte, ni Dieu ni flotte. On préfère le bonnet à la calotte, ni Dieu ni flotte. On se mouille, on tâche nos chemises, ça fait bien 100 ans que l'on trinque à la loi de 1905. Nous, on donnerait bien les églises aux sans-abri ainsi qu'aux sans-culottes, ni Dieu ni flotte. On ne craint pas les fûts, les canons, ni le tonnerre de vos dieux, ni les bonbonnes de vin vieux, ni les foudres de Saint-Émilion. Qu'il en tombe comme à Gravelotte, ni Dieu ni flotte. Qu'il en tombe comme à Gravelotte, ni Dieu ni flotte. Sur on vote rouge à chaque tour, on fait quasi tous les métingues en donnant du poing sur le zinc. Notre révolution de velours, c'est du moins du velours pour nos glottes, ni Dieu ni flotte. C'est du moins du velours pour nos glottes, ni Dieu ni flotte. On fait le tour du monde en ballon, on baptise jamais le vin, on n'a pas besoin des divins, on atteste que la terre est ronde. Qu'ils refourguent à d'autres leur camelotte, ni Dieu ni flotte. Qu'ils refourguent à d'autres leur camelotte, ni Dieu ni flotte. On ne croit pas aux clous des fakirs, on croit pas aux clous sur les croix, ni à l'eau, ni à l'au-delà. On préfère le communard au kir, on préfère le bonnet à la calotte, ni Dieu ni flotte. On préfère le bonnet à la calotte, ni Dieu ni flotte.
Ni Dieu ni flotte, c'était Rémo Gary dans Trou Noir sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération Anarchiste.
Merci Monique, très belle chanson, très bon chanteur qu'on recommande. Donc, on va faire deux petites séquences encore avec Thierry Maricourt autour donc de son livre Un coup de gueule, World World Wars, Walk Walk Walk, du délitement de la pensée émancipatrice, paru aux éditions Noir et Rouge. Donc, il paraissait assez difficile de faire une émission sur les comportements d'un certain nombre de gens se revendiquant. Bon, du boulot qui sont pas d'ailleurs, en tout cas de tout ce qui est maintenant à la mode là, avec si possible un mot américain devant ou derrière, donc c'est difficile de pas parler de ce qui s'est passé à Saint-Imier, donc pendant les rencontres RIA. Alors RIA, attention, des années avant, nous avions été, c'était des rencontres internationales anarchistes, et là, justement, du fait de l'insertion d'un certain nombre de groupes, enfin de petits groupes d'ailleurs, le terme a glissé, c'était la rencontre internationale anti-autoritaire, pourquoi pas, enfin bon, à mon avis, ce n'est pas un hasard le passage d'un mot à l'autre, et d'autre part, est-ce que ces rencontres ont été totalement anti-autoritaires. Alors oui, il y a énormément de choses qui sont passées, il y a eu du monde qui est venu, il y a eu divers ateliers. Il faut savoir que certains ateliers ont été supprimés, on ne sait pas trop pourquoi, bizarre, parmi des gens qui étaient sont insérés dans l'organisation. Donc tu peux, on va pas en parler très très longtemps, on a fait une émission avec beaucoup de témoignages, quand ça a suivi ce qui s'est passé, mais enfin... Tous les auditeurs sont pas forcément au courant, et en plus ça donne bien un exemple de comportement justement pas du tout anti-autoritaire, mais très autoritaire. Voilà.
Oui, par rapport à Saint-Imier, donc c'était en juillet 2023 où une table de presse tenue par la Fédération anarchiste a été violemment attaquée par des gens qui ne supportaient pas l'idée qui est
masqués,
qui ne supportaient pas l'idée qui est sur les tables des ouvrages anticléricaux, quoi. voilà. En fait, pour moi, ça a été un petit peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, quoi. Le phénomène wokisme, je suivais depuis des années. Je voyais bien ce qui se passait là ou là, tout ça. Enfin, je me suis toujours intéressé à ces phénomènes un peu inattendu ou un peu surprenant, et puis toutes ces, enfin, j'avais écrit il y a longtemps un livre qui s'appelle Les Nouvelles Passerelles de l'extrême droite, où je m'étais intéressé aux idées, aux mouvements, aux personnages passerelles entre une certaine gauche et l'extrême droite. Enfin, voilà, tous ces liens qui peuvent se faire, ça m'a toujours intrigué, quoi. Comment on peut un jour défendre des idées de tolérance, des idées de fraternité, des idées de liberté, et puis se retrouver par divers chemins à défendre exactement l'inverse. Voilà, se retrouver, alors bon, c'est le cas d'un certain nombre d'individus qu'on retrouve durant l'occupation dans les rangs nazis, mais finalement c'est le même processus avec le wokisme, voilà. Des gens, alors les rencontres internationales anarchistes sont devenues les rencontres internationales anti-autoritaires. Le mot anti-autoritaire, moi, il me gêne pas du tout, mais sauf que c'est plus la même chose. Et puis, sauf que les gens qui sont venus donc saccager une table de presse étaient tout sauf anti-autoritaires. Ils ont fait preuve d'une autorité extrême. Et puis c'était très facile, quoi, dans ce genre de lieu. Enfin, les anarchistes sont... certains peuvent, dans les médias, des fois, les anarchistes, c'est les anarchistes qui ont attaqué les prisons récemment, c'était la première hypothèse. Et forcément que c'est faux, évidemment que c'est faux, quoi. Enfin, quand on connaît un petit peu les anarchistes, il y a quand même pas plus gentil. Voilà, et quand ils s'énervent, c'est verbalement, et voilà. Mais après, éventuellement, il y en a un qui va prendre un manche de pioche et qui va peut-être casser un pare-brise, mais ça va jamais quand même très très loin. Les anarchistes, c'est quand même les seuls en politique à ne pas avoir de sang sur les mains. Voilà, depuis toujours, ou quasiment pas, quoi. Enfin, c'est donc voilà, Saint-Imier, un lieu où des gens défendant a priori des idées semblables ou proches, et puis des belles idées, certains arrivent et saccagent tout ça, ça m'a posé problème. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, on se fait avoir, là, on se fait déborder, on se fait infiltrer, il y a un souci, et j'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé. J'ai essayé aussi de relier tout ça avec le phénomène woke qui existe aux États-Unis, qui existe en France aussi. Essayer de comprendre. Voilà l'origine de mon livre, What's Walk.
Oui, juste un mot de précision sur Saint-Imier, sachant qu'on a fait une émission complète. On renvoie les auditeurs sur notre site avec beaucoup de témoignages. Et bon, les deux livres en question, celui de René Berthier, compagnon depuis très longtemps, dont le titre est Un voile sur la cause des femmes. Alors, c'est pas du tout un bouquin qui venait de sortir, hein. Ça faisait peut-être 10-15 ans qu'il était sorti, mais bon, justement, là, qu'on puisse penser que quelqu'un certains disent que le voile, ben, ça s'oppose à la cause des femmes, un peu ce qu'on a évoqué tout à l'heure, hein, c'était impensable. Alors, une petite anecdote, est-ce que c'en est vraiment une? Bien que nous n'étions pas sur place, on a pas vu pas mal de témoignages là-dessus. Les personnes qui attaquaient se vantaient de ne pas avoir lu le livre. Donc c'est juste par rapport au titre. Hein. Donc on lit pas des livres, mais on veut bien les brûler, mais on veut pas les lire. Faut pas déconner quand même. Voilà. Le deuxième livre, je me rappelle plus le titre, était de Zanas, qui est un athée reconnu comme tel, et donc qui a pas mal d'ennuis en Algérie. Bon, c'est toujours un peu, c'est ça recoupe. Un peu ce qu'on avait dit tout à l'heure, et puis aussi une chose qui nous a beaucoup choqué, au-delà évidemment de tout ce qui a pu se passer là-bas, des compagnons qui ont été agressés, qui ont vraiment vécu d'une façon très forte, quoi. Ils comprenaient pas vraiment comment on pouvait avoir des comportements comme ça, et en fait je m'en rappelle plus, le collectif là qui manipule un peu tout ça, qui est autour d'un site où il y a toutes sortes de gens, y compris peut-être des gens intéressants, bon, a fait paraître un texte que tu as sans doute vu, qui était un tissu de mensonges, quoi, mais de mensonges factuels, enfin de mensonges. C'était, ils auraient pu avoir des positions violentes ou autres en parole, mais là c'était des mensonges, quoi. Contraire, c'est tout juste si c'était pas eux qui s'est fait agresser, enfin c'est n'importe quoi, quoi. Quand on étudie ce genre de méthode, moi c'est exactement, enfin je l'ai dit tout à l'heure. Je ne sais plus avec qui j'ai discuté. Moi, la cause que défendent ces gens-là, j'en veux même plus, quoi. Ça se retourne même contre eux. Par rapport à des gens comme moi, ils sont ouverts. Par rapport à tous les problèmes, ils sont soulevés. Voilà. Donc, c'est bon. J'ai toujours un peu gros sur.
Oui, non, mais c'est toujours est-ce que la fin doit justifier les moyens, enfin,
oui,
c'est...
Là, on retrouve ça. Ça, c'est un exemple concret. Ceci étant, et dernière précision, je crois que je t'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, il y avait eu des menaces en amont, avant l'organisation. Voilà. Donc, j'en passe. Monique me fait. Il faut que je te repasse sa parole. On ne développe pas trop là-dessus. Oui, parce que je pense qu'elle a une prise musicale.
Non, et puis. Et voilà. Puis, si j'ai écrit ce livre, c'est aussi une sorte de cri d'alarme. Ouais. Ce qui se passe, ce phénomène-là de retournement des valeurs, il s'observe dans une certaine ultra-gauche. Mais ça, ce n'est pas forcément récent. L'ultra-gauche a toujours été très perméable au stalinisme, au maoïsme.
Tout à fait,
toutes les idéologies autoritaires, voilà. Il se retrouve aussi, mais par phénomène, comme c'est un phénomène qui touche essentiellement le milieu universitaire et puis le milieu des médias, c'est d'une part, c'est pour eux, ça gagne très vite. Quelqu'un en usine qui a une idée à la con, il va la garder pour lui ou il va la partager avec ses collègues, mais ça sortira pas du milieu. Tandis que là, c'est tout de suite des idées qui sont relayées. Et toute la gauche aujourd'hui est gangrénée par cette façon, par le wokisme, par cette façon de voir les choses. Et nos milieux, là, je suis sur l'antenne de Radio Libertaire, donc je dis nos milieux libertaires sont aussi gangrénés par cette façon de penser. Alors heureusement, je vois avec ce bouquin, j'en ai beaucoup discuté avec des militants, il y a beaucoup de résistance aujourd'hui. Voilà, le wokisme n'a pas gagné chez les anards. Mais on n'est pas non plus à l'abri. Un rassemblement comme Saint-Imier qui dégénère, ça peut se reproduire ailleurs. Voilà, c'est pour ça aussi qu'il faut... ce bouquin, je le présente aussi souvent comme histoire de mettre les points sur les i. Il y a un moment, il faut mettre les points sur les i. Dire voilà, qui on est, ce qu'on veut, et que c'est pas n'importe quoi avec n'importe qui.
Oui, on va juste avant une pause musicale, encore un mot, toujours sur les conséquences, etc. Parce que pour les auditeurs qui connaissent pas un peu tout ce qu'il y a dans le livre ou qui en ont vaguement entendu parler, Il y a aussi tout une, dans le comportement, bon, moi j'appelle ça l'entrisme ou l'infiltration dans un certain nombre d'organisations. Bon, on a eu quand même des échos divers, y compris dans des organisations amies comme la CNT, à Sud, je crois à la Ligue à l'Homme, où ce type de comportement crée un énorme malaise, voire des scissions parfois. Et finalement, on fout en l'air des fois le travail d'organisation depuis des années, quoi. Voilà, donc si tu as un mot là-dessus. Un mot.
Non, mais forcément, c'est un comportement. Mais c'est pas un comportement de rassemblement, ça, c'est un comportement d'éviction, voilà, de mise à l'index. Si, ne serait-ce que dans les manifestations en faveur du. Contre les violences faites aux femmes, par exemple, j'ai plusieurs exemples en tête. Si les hommes sont évincés parce qu'ils sont des hommes, mais quelle connerie. Le monde, il est fait d'hommes et de femmes. On peut pas évincer une partie de la population parce que au nom de quelle idée que ce soit. Si une manifestation contre, ou quelque chose contre le racisme, on évince les blancs ou on évince les, je sais pas, on peut évincer toutes sortes de gens aussi. C'est forcément contre-productif, ça va bien au-delà de, c'est complètement idiot, c'est débile, c'est la police voudrait casser nos rangs, qu'elle procéderait pas autrement.
Allez, une pause musicale réclamée à corps et à cri harmonique.
Y a qu'une seule cartouche d'encre noire dans mon stylo désarmé, juste une plume trempée dans l'espoir d'un monde de fraternité. Au fier messager de la haine, j'envoie cet avion de papier chargé des seuls mots de ma peine sur leur tour d'inhumanité. Moi qui ne crois en aucun dieu, je prie celui qu'on voudra pour qu'au mur des villes, des banlieues, se tague un jour des mots de joie. Mes larmes ne m'écoutent plus, larmes de rage et de tristesse. C'est un peu de moi que l'on tue, mes rêves d'ado que j'y laisse. On gommera nos masques tristes, nos guitares sans importance seront nos fusils d'artistes. Je vais encore gueuler l'amour, plus haut, plus fort sur tous les toits, pour qu'il soit contagieux autour et qu'il gagne enfin pour une fois. Je suis enfant sans armure, l'eau, le feu, la terre et le vent. J'ai mal à celui qu'on torture, je suis humain simplement. Pour tous ces frangins qu'on enterre, j'ai dessiné cette chanson-là. Je n'ai que ça comme prière, pour leur dire qu'on ne les oublie pas.
Je suis humain, Eric Frasiak, dans Trou Noir sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste.
Et bien voilà, c'est la dernière séquence ce coup-ci, donc avec Thierry Maricourt, autour de son livre Words, 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 Walk, 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 du délitement de la pensée émancipatrice, voilà, et de l'universalisme, tout ça s'est dépassé, bien entendu, le tribalisme, comme tu utilises, je crois, ou quelqu'un en fait une citation. Oui, je voulais dans le prolongement de ce que tu avais évoqué avant la pause musicale, c'est-à-dire, pourquoi, enfin, comment, c'est quand même pas normal d'exclure des hommes dans une manifestation bon. Mais ça pourrait être dans l'autre sens, hein, évidemment. Et ça m'a fait penser justement à des choses qu'on a, on a fait plusieurs émissions là-dessus, sur ce qui s'est passé en Iran, et où là, c'est effectivement les femmes, moi dans un premier temps, parce qu'elles subissaient des choses depuis des années, elles avaient envie que ça change. Elles sont descendues dans la rue, ça vous le savez, mais on a eu ce qu'elles voulaient, c'est que les hommes soient avec eux, viennent. Elles ne sont pas dit, au contraire, venez dans les cortèges, etc. Et si elles étaient en tête, c'était pas pour... Pourquoi ? Parce qu'elles avaient un projet global, c'est-à-dire à la fois leur liberté, femme, vie, liberté, mais à travers ça, avoir un projet global. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est en fait, à l'origine, c'est les femmes kurdes qui avaient c'est plus qu'un slogan, d'ailleurs, ce programme, en fait. C'est des femmes qui luttent, et des femmes tout ça, mais elles ne luttent pas pour mettre les hommes de côté ou contre les hommes. Elles luttent pour une société dans laquelle elles auraient leur place, et comme les hommes, etc. Donc, dernière phrase que tu pourrais commenter, je crois, chez Mise, dans la présentation, on s'en fout. Est-ce que, finalement, par rapport à ça, quand même un certain nombre de gens, dont les anarchistes, j'espère, qui ont envie d'une autre société, est-ce que, par rapport à cette envie, il y a une phrase que tu donnes, est-ce que la lutte des races, enfin, pour certains, il faudrait que la lutte des races remplace la lutte des classes, et ce qui, effectivement, ferait bien plaisir au tenant du capitalisme. Alors, quelques mots là-dessus, je crois que j'ai lu dans ton livre.
Oui, enfin, d'une part, à propos des femmes en Iran, et puis moi, je pense qu'il y a des combats où on ne sera jamais assez nombreux pour mener certains combats. Enfin, quand on voit en plus les forces en face, c'est des gens armés, des gens qui tiennent le pouvoir et qui désire le conserver, on peut pas se permettre de dire toi t'es pas comme il faut et tout ça, va-t'en. Non, il faut, plus on est nombreux mieux ça vaut, pour défendre les femmes, pour aller contre la répression en Iran et tout ça, c'est pas simplement les femmes, c'est les femmes et les hommes, c'est tout le monde, enfin voilà. Après
oui, je disais une phrase que tu... Est-ce que la lutte des races, enfin, c'est une formule, mais remplacerait la lutte des classes.
Voilà, après, moi, je pense, en fait, tel que c'est mené aujourd'hui, toute cette idéologie woke, tous ces combats parcellaires, mais qui forment un tout woke, je pense que ça s'inscrit tout à fait dans une société capitaliste, il n'y a aucun souci, une société libertarienne, comme elle est en place aujourd'hui aux États-Unis, c'est le libertarisme, je rappelle, ça n'a rien à voir avec le mouvement libertaire, hein, c'est même à l'opposé, mais c'est le libertarisme, c'est ma gueule avant tout, voilà. Et le wokisme, ça s'inscrit complètement dedans. Moi, je suis noir et donc je revendique mes qualités de noir, ma négritude, je revendique tout ça et point. Je veux pas savoir, les femmes elles peuvent être battues, je m'en fous. Moi, je suis femme et je revendique pas ma féminité, mais ma qualité de femme, et je m'en fous de l'ouvrier qui va être en butte à son patron et tout ça. C'est tous ces combats wokistes s'intègrent très bien dans une société de type libertarien. Voilà. Et c'est pour ça aussi que la lutte des races, alors qu'il n'existait plus et tout ça, on parlait plus de race, et puis maintenant on remet ça sur le tapis, on reparle de race, parce que bien sûr, si ça permet d'éclipser la lutte de classe, c'est parfait. Enfin, qui en tire profit? C'est pas les prolos, c'est pas ceux du bas de l'échelle qui s'en prennent plein les dents au quotidien. C'est ceux qui sont au-dessus qui se satisfont tout à fait ça, de ça. Voilà, qu'on reparle de lutte des races, c'est parfait ça. Finalement, les plus forts sont les gagnants. C'est ce que dit Trump à longueur de journée. Vivez les plus forts, enfin, relayés par Poutine ou inversement. c'est aux antipodes de ce que nous, on peut souhaiter. Mmh. Hein. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la lutte des races, ça n'existe pas. C'est la lutte des classes, par contre, elle existe toujours. Mmh. Alors, le monde du travail est putain qu'il était... Il y a un siècle ou même il y a 50 ans, ça, les choses évoluent. Il n'y a plus une classe ouvrière aussi nombreuse et aussi...
Enfin, dans le contraire, hein, parce que oui, si on va chercher je parle aussi ici, ailleurs...
Oui, hein. Je parle ici. Ce monde ouvrier est en voie de disparition. Le monde paysan est également pire, en voie de disparition. Pire. Mais le salariat n'a pas disparu. Alors aujourd'hui, ça va passer par des services. Enfin, tout ce qui est Uber et tout ça, ça fait partie aussi du prolétariat. Tous ceux qui sont dans ces situations-là, tous ceux qui vivent le salariat aujourd'hui, subissent la lutte des classes. Mmh. Voilà, c'est une réalité qui existe toujours, qui s'est transformée, mais c'est une réalité ça. Mmh. Et ne plus parler de cette réalité au profit d'une pseudo-lutte des races, c'est faire le jeu de qui ? Parce que c'est ça quand même la question à un moment. Qui se frotte les mains de ces combats débiles que mènent les wokistes?
Justement, c'est une question que je me posais, mais bon, j'ai pas cherché beaucoup non plus, j'avais pas trop le temps. Mais est-ce qu'il y a eu quelque part, aux États-Unis, pourquoi pas, ou ailleurs, ou en France, ou une étude sociologique, mais c'est pas toujours facile, parce que c'est un milieu assez fluctuant, qui se crée à travers des réseaux sociaux, etc. Mais est-ce qu'il y a une étude sociologique sur... Alors, bon, il y a peut-être une première réponse, c'est plutôt dans les nouvelles générations, ce qu'on appelle, je crois, la génération Z, ou quelque chose comme ça. Oui, Z, hein, c'est ça. Ça, je pense que c'est... Enfin, ça n'a pas besoin de faire une étude sociologique pour l'imaginer. Mais est-ce qu'au-delà de ça, il y a eu des études sociologiques,
oui,
à ta connaissance?
Il y a eu des études, enfin tout récemment, là. Donc il y a quelques jours, dans Le Monde, il y avait deux pages dessus pour justement disserter un petit peu qui est tenant du wokisme aujourd'hui, qui est touché par ce phénomène. C'est ce qu'on vient de dire depuis le début, c'est que c'est un phénomène ultra marginal. Mm-hmm. Qui est parti soit de l'université, soit du monde des médias, et donc qui s'est propagé très vite. Mmh. Voilà, mais qui s'est propagé, mais en même temps dans certains milieux. Alors nous ici, on est au courant, mais c'est aussi parce qu'on lit. On lit la presse, on lit sur les réseaux sociaux, on s'informe autant qu'on peut, parce que pour l'information, c'est aussi un moyen de pouvoir combattre, de pouvoir se défendre. Voilà. Mais on réfléchit, on se rencontre aussi entre nous, on est militants, ou plus ou moins militants, donc on se rencontre, on échange, voilà. Donc on est au courant de ce phénomène. Mais dès qu'on sort de ces milieux-là, personne ne court. Alors je commence mon livre en expliquant que quand je parle du wokisme, alors souvent je tombe sur des gens qui connaissent pas du tout. Mmh. Alors ça, moi je veux bien l'entendre. C'est ce que je viens de dire. Hein. Mmh. C'est quand même un phénomène très très restreint. Je tombe aussi sur des gens qui sont militants et qui disent oui, mais moi un petit peu style, je suis Charlie, mais
D'accord.
Voilà. Je veux pas me mouiller là-dessus, je veux pas me prononcer parce que je veux pas me fâcher avec machin.
Oui, et puis je veux pas être, enfin ils le diront peut-être pas, mais je veux pas être accusé de.
Et je veux pas être accusé de. Pas voilà, on est très vite si on utilise le mot wokisme aujourd'hui. Enfin, c'était un article de Politis, par exemple. Un excellent titre pour allumer sa cheminée pour ceux qui en ont encore. Pour emballer le poisson, comme dirait Astérix. Si on se dit wokiste, on est très vite accusé d'être d'extrême droite. Alors, c'est pas forcément plaisant quand on ne l'est pas.
Oui, bah voilà.
Voilà. Et puis, il y a aussi il y a beaucoup de gens, de fait, qui vont dire je ne sais pas ce que c'est, qui ne se prononceront pas. Mmh. Voilà. Ça me désole. Ça me désole. Il y a des choses, enfin. quand on pense, quand on a des idées, quand on essaie de défendre ses idées, il y a des moments où il faut aussi risquer de se prendre des claques, mm-hmm. ou risquer de se faire insulter. Ça fait, enfin, je dis pas que ça fait partie du jeu, c'est pas un jeu que j'apprécie beaucoup, mais bon, ça fait partie des risques. Mm-hmm. Hein, c'est comme quand on va manifester, on sait que parfois on peut être arrêté. Mm-hmm. Voilà, c'est pas, on souhaiterait que ça soit mm-hmm. autrement, mais voilà. Et quand on défend des idées, on sait que parfois on va être attaqué. Mais le problème, c'est pas d'être attaqué sur ses idées. Le problème, c'est d'être attaqué sur autre chose, enfin, qu'il y ait des amalgames. Mmh. Voilà, c'est pas parce que. Parce qu'on va utiliser le mot wokiste, enfin, qu'il y a une réalité que les wok eux-mêmes utilisent, qu'on est forcément d'extrême droite, et puis être qualifié d'extrême droite, ça fait pas forcément plaisir à tout le monde. Mmh. Hein.
Mais est-ce que, si tu veux, il n'y a pas. Enfin, par exemple, affrontement d'idées, voire des fois affrontement physique. Il y avait une période où les anarchistes, par exemple, allaient parfois dans des meetings communistes, ça terminait mal, mais il y avait une présence physique, alors des fois peut-être un peu rude. Mais maintenant, j'ai l'impression que ce qui embête certaines personnes, c'est que bon, ça beaucoup se passe en tapant sur un clavier, et après tout de suite arrivent les injures, et après ils vont pas savoir comment s'en dépatouiller, tu vois. Non, mais si tu retrouvais les gens au café d'à côté, c'est pas pareil, quoi. Ça, je veux dire.
Ah oui, et puis tu peux t'engueuler en face à face au café, voilà. Aussi, et parfois, voilà. C'est pas plus mal, ça, même s'engueuler avec un ennemi, pourquoi pas. Ça permet aussi éventuellement de changer, d'évoluer. Si l'autre a des meilleurs arguments que toi, pourquoi pas. Mais non, aujourd'hui, c'est pas ça. Enfin, ce qui s'est passé à Sciences Po ces derniers mois et tout ça, enfin, c'est pas possible non plus. On parlait d'antisémitisme tout à l'heure, mais si c'est pas l'antisémitisme, le comportement de certains étudiants, ça y ressemble beaucoup. Alors, tout ça au nom de l'antisionisme, au nom de la défense de la Palestine, moi je veux bien, mais enfin tu défends pas n'importe quelle cause avec n'importe quel moyen non plus. Là, je pense à cet enseignant, je crois sur Lyon, qui voulait pas qu'il y ait un lieu dans l'université qui serve pour fêter la fin du Ramadan. Il a été accusé de racisme, il a été injurié, il a pas pu tenir son cours. Alors après, on apprend qu'il est de droite, mais quel rapport? Je m'en fous complètement qu'il soit de droite. Enfin, c'est pas voilà, sur le fait qu'il veuille pas que dans l'université on fête la fin du Ramadan, moi ça me paraît tout à fait normal. L'université, ça doit être un lieu neutre d'un point de vue d'un point de vue religieux. Voilà. Si on a le droit d'avoir la religion qu'on veut, mais on la pratique ailleurs, mais pas au sein de l'université, pas au sein d'une école, pas voilà, il y a des domaines qui sont des domaines publics. Où on met ça de côté.
Oui, mais aussi, par exemple, dans les écoles, où il y a maintenant un certain nombre de parents, souvent pour des histoires de religion musulmane, mais ça pourrait être pour autre chose, qui veulent intervenir sur les programmes, il y a des pressions sur les profs, etc.
Il y a eu des livres écrits sur l'intervention des frères musulmans dans les écoles, enfin, où tous ces courants intégristes, et il y a encore d'autres livres à écrire dessus, parce que j'interviens beaucoup dans des écoles, moi je fais beaucoup d'ateliers d'écriture auprès d'enfants, le nombre de phénomènes de ce type que je peux voir, enfin, alors il y a des choses, c'est pas très grave. Quand une maman voilée accompagne ses enfants lors d'une sortie scolaire, bon, on peut dire qu'elle pourrait retirer le voile, mais bon, elle ne retire pas, et bon, c'est pas, enfin, moi je vois pas de quoi en faire un drame non plus, voilà, passons. Mais ça c'est pas grave, mais les interventions le désir d'intervention de certains parents sur les programmes, sur la laïcité, sur le fait qu'il y ait dans une même classe des garçons et des filles, enfin toutes ces choses là ça c'est inadmissible. Et ça se, alors des exemples, tous les enseignants, je pense, ont plein d'exemples en tête. Voilà, et dénoncer ça, c'est pas être raciste, c'est pas être anti-musulman, c'est juste demander à ce qu'on respecte la laïcité qui permet à la France, je vais pas défendre la France plus que ça, c'est un pays des fois dans lequel je me reconnais pas sur toutes les valeurs, mais qui permet quand même à la France que tout le monde puisse vivre dans ce pays. Voilà, des gens qui croient, des gens qui ne croient pas, des gens qui viennent de loin, des gens qui sont nés ici, tout ça, tout le monde arrive à vivre. Et c'est la laïcité qui permet ça quand même. Donc, ça, c'est un des bons côtés de notre démocratie. Essayons de préserver ce côté-là.
D'accord, bah, je pense qu'on va terminer là-dessus. Je rappelle le livre donc, de Thierry Maricourt, Words, Walk, donc aux éditions Noir et Rouge, avec une très belle couverture. Plein de couleurs et tout. Monique, une dernière pause musicale.
Oui, on va se quitter avec Serge Géroyot, J'ai pensé que mes mots. Chanson dont vous pouvez retrouver une partie du texte dans le livre de Thierry Maricourt. Au revoir, à la semaine prochaine.
J'ai pensé que mes mots vous prendraient par le cœur et que mon utopie brillerait dans vos yeux. J'ai pensé que bientôt des rides de bonheur vieilliraient la folie et son masque de feu. Au large, les vivants font un bruit magnifique, tendu vers le soleil et se donnant la main. Ils portent doucement une grande musique. Sous les cintres du ciel, au sortir du matin, je pensais que peut-être nous serions solidaires au-dessus de l'orage allumé par la peur. J'ai pensé que les êtres qui peuplent notre terre offriraient des visages ouverts comme des fleurs. Je chante mes espoirs venant du fond de vous, glaner dedans la vie au hasard des chemins. C'est un vaste miroir où la nuit se dissout dans un rêve fini, l'angoisse qui s'éteint. J'ai pensé que bientôt les rides de bonheur vieilliraient la folie et son masque de feu. J'ai pensé que mes mots vous prendraient par le cœur et que mon utopie brillerait dans vos yeux. Et que mon utopie brillerait dans vos yeux. Et que mon utopie